With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Avec Guillaume et Aurélien, on est ravis. Comment ça va les mecs?
Salut tout le monde.
Aujourd'hui, nous sommes 5 autour de cette table, puisque nous sommes très heureux d'accueillir Mehdi Maizi et Anis. Bienvenue les mecs.
Merci beaucoup, bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Alors Mehdi, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Bien sûr, je m'appelle Mehdi Maizi, j'ai malheureusement 33 ans, parce que le temps qui passe me fait peur, j'en parlais avec Anis en arrivant ici, et je suis journaliste rap, on peut dire ça.
33 ans ça va encore, tu parles à des mecs quand même qui ont 36, 37 là autour.
D'ailleurs vous me faites beaucoup
58,
de peine.
58, voilà, je vais
Anis.
Moi c'est Anis, je crée des vidéos sur internet, entre autres, et puis moi j'ai 29. Fait de
ah,
moi
mal,
le
ça.
Petit genou.
Ça m'arrive jamais. Est-ce que t'as peur
ouais,
du 30?
En vrai, un peu, ouais. J'ai peur de. En fait, j'ai peur. Moi, c'est pas du 30, c'est que la vingtaine se finisse, mais c'est la même chose.
Voilà, mais ça veut pas dire rien, je comprends.
Ouais, moi, c'est que je me dis, la vingtaine, elle est partie. Mais être vieux, je m'en fous, moi. C'est juste la vingtaine, c'était cool, quoi.
Je dis pareil pour moi parce que dans deux jours j'ai 49 et du coup j'ai... c'est un peu relou. Alors il y a deux semaines c'est moi-même qui ai choisi le film du jour. Je me suis baladé sur l'outil Cinematcher que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinema, outil qui nous permet de choisir des films avec une infinie précision. Dans les options j'avais cliqué sur Maison, puis Europe, bouleversée, années 90 et j'étais tombé sur La Haine, film culte des années 90 réalisé par Mathieu Kassovitz. C'est sorti précisément en 1995, film qui avait à l'époque soulevé le festival de Cannes et qui raconte l'histoire de trois potes dans une cité de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Le récit se déroule au lendemain d'une nuit d'émeute et durant une heure et demie, on suit les pérégrinations de ces trois mecs. Alors la question traditionnelle à chaque début de podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Je vais commencer avec toi Mehdi.
Alors, moi quand c'est sorti, j'étais petit, j'étais enfant, j'avais 8 ans je crois. Donc j'ai pas vu le film à sa sortie, en tout cas je l'ai pas compris. Donc moi mon souvenir lié à ça c'est davantage des souvenirs de cours de récré où en fait il y avait une sorte de, je sais pas, de mystère autour du film. Et c'était genre, est-ce que t'as vu La Haine ou pas? Et plus que La Haine, il y avait une sorte de, tu sais, le film de banlieue à l'époque c'était presque devenu un film de genre. C'est-à-dire qu'il y avait Rail, il y avait Ma Cité va craquer et il y avait La Haine. Et moi je voyais pas fort. Aujourd'hui, vraiment, quand tu regardes ça 20 ans après, un peu plus même, clairement, La Haine est le meilleur de tous ces films-là, vraiment. Mais à l'époque, c'était pas aussi évident que ça. Donc pour moi, il y avait plus... c'était genre toute cette vague de films de banlieue que je devais voir sans forcément avoir vu et sans forcément être en mesure de les comprendre. Le seul que... Limite, le seul que j'avais vraiment vu, c'était Rail. Peut-être pas uniquement pour le film.
On en parlait en off. La présence de Tabata Cash, il faisait beaucoup.
Oh, je parlais pas de ça, moi.
Ah mais
bon, c'est le cheval, voyons. Après, tes propos t'engagent.
Oui, mais, oui.
Mais voilà, il y avait vraiment ça. Et je me souviens aussi d'un truc, c'est que moi, je ne l'avais pas encore vu. Et à l'école, c'était ouais, par contre, attention, c'est relou, il est en noir et blanc. Donc je me souviens de ce truc-là. Genre, c'était un film sur la banlieue en noir et blanc, ce qui était genre un parti pris esthétique qui semblait complètement fou pour un gamin de 8 ans. Voilà, donc moi, c'était un peu ça. C'était le film dont tout le monde parlait, qu'il fallait voir. Et en fait, je l'ai vraiment vu et compris des années après. Mais à sa sortie, c'était un des événements quoi du moment. Il y avait aussi le parfum de scandale avec, tu l'as dit, le festival de Cannes. Donc c'était davantage ça. Et je crois que j'avais juste pas le droit de le voir en fait potentiellement.
Ouais. Et puis à la différence de Ma Cité va craquer ou encore Rail, ce film-là était repris par les médias parce qu'ils faisaient parler.
Tout à fait. Ouais.
Donc du coup, ça créait un peu l'envie chez chacun de le voir.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Et toi, Anis?
Un peu pareil, j'ai été trop jeune. Enfin, c'est marrant de dire on va justifier notre âge à chaque fois. Puisque j'avais. Non, ce qui est marrant, c'est que, comme tu l'as dit, ouais, ça faisait partie des films qu'on se passait. Mais ce qui est fou, c'est qu'en général, on se passait des films américains. Et du coup, il n'y en avait pas beaucoup de Français qui sortaient du lot dans ces DivX. Et du coup, il en faisait partie. Et t'as raison de dire qu'il était pas mal repris, parce que moi, j'avais l'image de Vincent Cassel face au miroir. Peut-être qu'il était cité, je sais plus, partout. Mais cette image, je la connaissais très bien avant d'avoir vu le film, quoi. J'ai l'impression d'avoir grandi avec ce truc-là, cité de temps en temps et ressorti à chaque fois, quoi.
Et toi, Guillaume ?
Eh ben moi c'est pareil, je l'ai pas vu à sa sortie, mais je l'ai vu quand j'étais lycéen.
Tu avais quel âge en fait ?
J'ai vu quand j'étais lycéen et je me souviens d'avoir fait le lien entre un. En fait, dans mon quartier, il y avait un tag Saïd baise la police que je croisais régulièrement. Et quand j'ai vu le film, j'ai fait ah mais putain.
Ah ouais, c'est comme là, dans c'est Inception où
tu sais, tu fais des liens.
Oui, je le suspecte, t'as fait tomber ta tasse
si...
et tout.
Ouais, exactement. Mais c'est comme si tu vois pas la cité de la peur et tu comprends toutes les bonnes une fois que tu les vois parce que tout le monde les fait tout le temps. Et là c'était pareil, j'ai vu Saïd baise la police, je suis ah ok et tout. C'est pas que ça que j'ai retenu du film.
David, ça en fait.
Bah, vraiment.
Stylé quand même.
T'étais sur le tournage, t'as même pas rendu compte.
T'es dans le film.
Et toi, Aurélien ?
Et bien, moi, vu mon âge très avancé, je pense peut-être être le seul à l'avoir vu.
T'avais déjà un
cinéma.
Gamin et tout. Ah ouais. Tu allais avec ton gosse et tout.
Non, je suis allé avec mes petits-enfants à l'époque. Non, en fait, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans et pour le coup, je me rappelle que la sortie, c'était le jour de la fête du cinéma. Et à l'époque, pour le coup, t'avais toutes les séances à 10 francs. Si la première, tu l'achetais plus cher, c'était en francs, les frères.
C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe.
Pourquoi j'ai fait un combo très étrange. J'ai fait un combo La Cité des Enfants Perdus, Dumb and Dumber, La Haine.
Ah ouais. Et dans la même journée.
Ouais.
Ok.
Ah, wow. Je t'allais voir 7-3 films à la suite. Ah, parce que tout était à 10 francs et tout. Et en fait, je me rappelle que bah La Haine, en fait, c'était, enfin, c'était pas moi parce que c'était pas, je venais pas de banlieue et tout. Mais genre, ça me parlait tellement, c'était tellement, tu sais, notre génération que genre, j'y suis retourné deux fois. C'est le premier film que je suis allé voir plusieurs fois au cinéma.
Mais du coup, quand t'es rentré chez toi, t'étais dans un mood chelou, quoi. Tu mélangeais Dumb and Dumber et La Haine.
Ouais,
c'est relou comme expérience.
Non, ce qui est fou, c'est que vraiment, je suis sorti de La Haine et je suis allé voir Dumb and Dumber. Okay. J'étais en mode énervé, genre, putain, les flics, vous êtes dégueu. Et après, je fais, allez, on va faire des blagues et tout. Et c'était ça qui était assez drôle. Mais après, ouais, sinon, les souvenirs que j'en ai, c'est tout, en fait. Je pense qu'à l'époque, c'était le début où j'allais voir des films style Tarantino et tout. Donc, c'était un peu le début de la violence, le film un peu, tu sais, t'as pas le droit, interdit les films pour le jeune un peu, tu vois, et La Haine faisait totalement partie de ça. Pour moi, c'était un peu transgressif. T'avais l'impression d'aller voir un truc que tes parents ils comprenaient pas, tu vois. Eux ils voyaient que la violence, et toi tu voyais un truc où tu te disais mais ils ont trop raison, c'est ça qu'il faut faire.
Mais moi il y avait vraiment un truc
Tu l'as vu au ciné toi ou pas?
Non, j'ai pas vu au ciné.
Putain, je suis le seul.
Bah, non, désolé.
Catastrophique.
Non, moi j'ai grandi dans le 93, du coup il y avait un truc où fallait à tout prix voir ce film, comme disait Mehdi tout à l'heure. Et le premier souvenir que j'en ai, c'est d'avoir vu un film qui me donnait le sentiment de parler de choses que moi je voyais au quotidien en fait, au collège ou quand je rentrais chez moi, etc. Et j'avais vraiment ce sentiment de me dire, ok, bah pour une fois il y a un film qui parle de l'environnement dans lequel je vis. Et ça c'est vraiment le truc qui m'a marqué à l'époque. On a déjà eu des discussions autour de ce film avec Anis avant que je t'invite dans l'émission. Et toi tu me disais, et ça c'est intéressant, tu me disais que t'étais, alors pas que t'aimes pas le film, mais que t'étais un peu moins fan de La Haine. Est-ce que tu peux nous expliquer?
J'ai dit mot pour mot que je le trouvais surcoté.
Ouais, bon.
J'ai utilisé. C'est pire même, je crois.
Ouais, que je crois que c'est pire.
Non, en vrai, pour le coup, j'aime beaucoup ce film et tout. Enfin, on parlera des trucs positifs, je suppose, après. Mais c'est vrai que moi, ce qui me dérange avec ce film, c'est la phrase de c'est le meilleur film de banlieue. Et surtout, on peut pas en faire un autre, quoi. Et moi, ça me rend triste parce que pour moi.
Et tu penses qu'il y en a qui ont dit ça? Parce que là, il y a Les Misérables qui arrivent.
Ouais, j'ai l'impression que Les Misérables, les gens te le vendent en disant c'est le meilleur film depuis La Haine. C'est-à-dire qu'entre ce temps-là, on n'avait pas le droit. Enfin, il y a un truc qui induit que c'est impossible de faire un film aussi bien. Alors que pour moi, j'adore le film et il est trop bien, il est super bien réalisé. Mais pour moi, c'est facile de faire aussi bien, entre guillemets, si tu mets déjà un auteur et un réal qui viennent de banlieue, tu vois, pour le coup. Sans incriminer Mathieu Kassovitz qui a fait une tuerie en vrai, cinématographiquement et tout. Mais quand tu penses par exemple à... Pourquoi Les Affranchis, c'est aussi bien? C'est parce que Scorsese, c'est pas lui le rôle principal, mais c'est, il a grandi là-dedans et il sait de quoi il parle. Et je suis sûr que si on donnait une caméra ou qu'on allait chercher un mec qui sait faire ça, de banlieue, pas moi, forcément.
Parce qu'en fait, tu veux te placer de ouf.
On dirait que j'essaie de me placer. Non, mais vraiment, je parle même de 4-5 ans après.
Un mec qui fait des trucs sur YouTube. Putain, les mecs.
Voilà, si vous avez un budget. Non, mais j'ai vraiment l'impression que ça a été pas grand, enfin, qu'il y a une, pendant un long moment, on n'avait pas le droit de... On n'arrivera pas à faire aussi bien, donc
mais
laissons
c'est,
tomber.
Mais c'est pas
quoi.
La faute du film, du coup.
Oui, c'est pas du tout la faute du film. Dire. C'est pour ça que je dis qu'en fait, bah, du coup, j'aime le film et je le kiffe bien. Ce qui me dérange, c'est le discours qu'il y a autour de genre, on fera jamais aussi mieux, donc Aller faire autre chose.
Mais d'ailleurs, c'est une bonne question, ça, depuis ces films, donc Rai, La Haine, Mastéba Craqué, est-ce qu'il y en a eu tant que ça? Je me souviens qu'il y a eu Bande de filles de.
Moi, je pense, enfin, un film, je crois, qui est sorti en 99, si je dis pas de bêtises, mais que j'ai même pas vu. Nemo, je pense que tu l'as vu. Pardon, moi, je l'appelle Nemo, je l'appelle pas Aurélien. C'est une déformation professionnelle. mais La Squale.
Tu sais, ah ce ouais, film-là, ah ouais,
c'est un bien truc qui était un peu après, qui était, je crois, pas mémorable, mais je l'ai pas vu. Je me souviens juste de la critique de Ciné Live à l'époque, parce que j'étais abonné à Ciné Live, que j'ai mis deux étoiles. Enfin, deux yeux. Bref. mais c'est juste, mais il y en a eu quelques-uns, mais effectivement, il n'y en a pas eu tant que ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression que, Les Misérables qui sort là, je sais pas quand le podcast sortira, qui sort dans les jours qui viennent, c'est un peu, le premier grand film depuis La Haine. Il y en a eu quelques-uns, effectivement, mais pas tant que ça.
Mais là où j'espère que ce film va être aussi bien que La Haine et tout, mais t'as raison, quand Divine est sorti, peut-être pas Bande de filles, mais quand Divine est sorti, il y a eu la comparaison, peut-être Bande de filles aussi, enfin, t'as l'impression que tous les films vont vivre dans l'ombre de La Haine et on pourra pas faire aussi bien, tu vois.
Après,
et
ce discours, il tient plus longtemps. Les Misérables, même si je l'ai pas vu, risquent de changer les choses, parce que là, des retours qu'il y a, ça peut être justement, alors je dis pas La Haine pour la nouvelle génération, mais un film qui va peut-être éclipser La Haine.
J'ai l'impression aussi, contrairement à La Haine, il y avait un truc sulfureux autour de ce film-là, donc il y a des critiques qui l'ont encensé, d'autres qui l'ont défoncé. Ouais. J'ai l'impression que Les Misérables, une sorte d'unanimité pour dire que là c'est le grand film de l'année limite, donc peut-être que la vie sera un peu différente. Puis après, juste pour revenir sur ta question, ça dépend de quoi on parle en fait. Si on parle genre de film de banlieue, et c'est un peu moi qui ai dit genre que c'était un genre à un moment, donc si on parle de choses qui se passent en banlieue, on n'a peut-être pas eu tant que ça. Après, je pense que L'Âne, il a aussi été important parce qu'il a montré juste des jeunes qui vivaient en banlieue au cinéma. Et ça, pour le coup, il y a eu quand même pas mal de films après. Et je pense, non, puisqu'on parle de la Jilly, je pense notamment à Courtrage, mais aussi bien à ce qui s'est passé en télé ou en DVD, parce que moi j'ai vu ça en DVD, qu'au cinéma, parce qu'en fait, finalement, quelque part, un film comme Shaitan, qui n'est pas du tout un film sur la banlieue, en fait, ça, les protagonistes, c'est des mecs qui pourraient être dans La Haine, tu vois, ou dans un film comme ça. Et je pense que Kassovitz, d'ailleurs, Cassel est dans Courtrage, etc., ça a aussi été un point de départ pour tous ces gens-là qui avaient peut-être pas l'habitude de prendre une caméra ou d'être devant la caméra et qui l'ont fait de manière beaucoup plus naturelle. Et je pense que c'est aussi en ça que La Haine, il a été exact, ça a changé les visages, les looks aussi, parce que moi j'ai revu La Haine ce matin, j'étais bon élève, la manière dont ils sont habillés, etc. On avait genre tous envie d'avoir le bonnet Carhartt d'Hubert, la veste Nike, tu vois. Ouais. Donc il y avait exactement ça, mais c'est stylisé et en même temps c'était juste comme ça qu'on était habillés.
Ouais,
tu vois, donc c'était pas surjoué.
En
quoi.
Même temps, il y avait un côté où, enfin, sans le vouloir,
Kassovitz, cool.
Ouais, il a fait un vrai film de cinéma pour le coup. Il y avait vraiment des personnages avec presque des, je sais pas des costumes, mais presque, tu vois. C'est-à-dire qu'il avait donné un archétype à ce que c'était pour lui, ce qu'il avait envie de raconter, quoi. Et il y avait cet archétype de, il y a un noir, un rebeu, un blanc, un juif, avec des histoires différentes. Il voulait raconter tout ça, et pour le coup, c'est ça aussi qui donne plus de force au film, je pense. C'est qu'il y a des gens qui peuvent, comme tu disais, JB, se sentir dans le film parce que, ils voient leur quotidien. Et il y a aussi des gens qui connaissent rien à cette histoire et qui vont rentrer dedans parce que c'est un film de ciné, quoi.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et qu'il y a la confrontation entre la banlieue, Paris, même les skins, tu vois, qui étaient plus trop présents dans les années 90, mais tu vois, le fait de jouer sur plein de ressorts un peu comme ça, de violence, de racisme, de clichés, en fait, c'est ça qui fait qu'à mon avis, les gens ont plus apprécié ce film que d'autres qui étaient plus ostracisés, je pense.
Alors Aurélien, justement, au moment où sort le film, nous sommes en 1995, et en 1995, le rap français commence à se porter très bien, si bien que les deux mondes vont s'entrechoquer.
C'est vrai. Ah, c'est ma chronique.
Oui, c'est ta chronique.
Quel lancement. Eh ben oui, c'est vrai.
Pourtant, c'était assez clair. Hein.
C'est vrai.
Non, mais c'est à toi, quoi.
Qu'est-ce que je te réponds à ça, la chronique.
Non, mais tu vois, c'est là où justement ça rejoint ce qu'on vient de dire juste avant, c'est que Kassovitz, tout le monde pense qu'il a fait un film sur la banlieue et donc sur le rap, mais en fait, dans le film La Haine, il y a un seul morceau de rap.
Mon esprit est déjà parti en yoku. Ils disent de moi que je suis devenu fou. Le carré double S n'est pas du tout comme tu le crois, malgré les apparences. Le 3 quart, le cosse à la caïra.
Et en fait, il explique ça déjà, Kassovitz. Il dit je voulais, dans mes premiers films, que la musique soit pas du tout principale. C'est-à-dire qu'il voulait pas qu'il y ait de musique de film, en fait. C'est-à-dire que la seule musique qu'on entend, à part le générique qui est Bob Marley, tout le reste, c'est des musiques que t'entends à travers soit des radios, soit en fait les goûts des acteurs, enfin des personnages.
C'est-à-dire dans la voiture.
T'entends ce qu'écoute Hubert, t'entends ce qu'écoute, t'entends Cut Killer qui va être un peu la séquence dont tout le monde va se souvenir, mais finalement tous les autres, par exemple Mon Esprit Part en Couille, qui est donc le seul morceau de rap français qui passe dans la voiture avant qu'ils aillent dans la boîte de nuit, c'est un morceau en fait qui voulait en fait donner un peu un esprit de genre qu'est-ce qu'on met comme morceau pour se monter un peu la tête et être dans le truc pour aller après en boîte et s'embrouiller et tirer aux grenailles sur le videur. Donc en gros, C'est le seul morceau. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est un morceau qui était avant sur une compilation qui s'appelait Ghetto Youth Progress, donc qui est sorti en 1994. Et en fait, Expression Directe était un groupe qui était managé par Rude Lion, qui était une sacrée carrière. Je vous recommande d'ailleurs de lire le livre Le Rugissant, qui parle entièrement de son histoire, écrit par Raphaël Malkin il n'y a pas très longtemps.
Et d'ailleurs, Expression Directe avait sorti un album qui s'appelait Guet-apens, ouais, qui aujourd'hui vaut beaucoup d'argent sur eBay.
C'est très très
bien. Et je l'avais prêté à un pote, donc s'il écoute ce podcast, je l'avais prêté il y a une dizaine d'années, il ne me l'a toujours pas rendu.
Bah dis-lui qu'il tourne.
Bah oui, parce que j'ai vu qu'il était genre à 150-200 euros sur eBay.
C'est la carotte, c'est la carotte.
Ce serait pas mal. Ouais,
merci. Il a peut-être vendu là. Hein.
Je pense.
Je sais pas.
Ou alors il va le vendre après cette info que je viens de lâcher dans le podcast. Est-ce qu'il est beau?
T'as foiré là. Et ouais, pour le coup, Rude Lion, il l'a présenté. C'est un pote à Saïd Tagmaoui. Et donc, c'est comme ça que Mathieu Kassovitz a eu vent de ce morceau. Et vu que Kassovitz, à l'époque, était très fan de rap West Coast, il écoutait beaucoup Snoop Dogg, Luther Dre et tout. Il s'est ressenti dans l'esprit un peu Kaira de Expression Directe, et c'est un peu aussi l'image qu'on en a en fait du film. C'est le côté un peu Kaira des années 90, tu vois, le Lacoste, ouais, tu vois, le truc. Ce qui n'est pas tout à fait, on va dire, l'ADN du film, mais c'est ce qui en ressort, notamment par le fait qu'ils aient choisi Expression Directe et Mon Esprit Part en Couille comme seul morceau. Après, sur Kassovitz, le fait que souvent on traite qu'il n'a jamais été vraiment ni dans le rap, ni de banlieue et tout, quand même, Kassovitz, c'est sa toute première réalisation, c'est un clip de Tonton David, Peuple du Monde, qui est quand même le premier single qui sort de Rap Attitude.
Bravo, merci.
En 1990, Rap Attitude sort, qui est donc la plus grosse compile possible, et Kassovitz c'est complètement dans le rap à cette époque, et il demande à Tonton David s'il peut faire son clip. Donc le fameux clip qu'on a tous vu, c'est Kasso qui l'a fait quand même, et après...
C'est un gros morceau en plus. Hein,
bah ouais, c'était énorme. Ça a fait 100, j'avais revu que ça avait vendu plus de 100 000 disques, c'était vraiment un truc énorme. Et derrière, il réalise Métis, dont on pense rarement, en fait, à
moi, j'adore ce film.
Ouais, avec qui est super cool. Métis, ouais. Qui a un petit peu une copie de Spike Lee, ouais, quand même, mais dans laquelle on retrouve énormément de rap, notamment Assassin, qui est un peu le fil rouge de Mathieu Kassovitz, qui a donc un premier morceau qui est le thème de Métis. Et c'est là que Kasso va devenir pote avec Assassin, notamment parce que Vincent Cassel, qui est son grand pote, bah, c'est le frère de Rockin' Squat. Et que Solo va devenir un peu principal dans son truc. Et d'ailleurs, on retrouve Solo, l'autre membre d'Assassin, dans La Haine. C'est lui qui est dans la voiture avec Vincent et avec Vince, et qui part un petit peu en sucette avec lui. Et Solo, d'ailleurs, va être super principal, parce que c'est lui qui va s'occuper de la BO inspirée de La Haine. Parce que vu qu'il n'y avait pas du tout de morceau de rap dans le film,
fallait la construire.
Bah ouais, ils se sont dit genre, bah maintenant on va utiliser le délire du film pour faire une BO, quoi. Et Kassovitz a dit, bah écoute Solo, j'ai envie que ce soit toi qui t'occupes de ça. Est-ce que tu peux gérer une BO qui ressemble au film et qui a les mêmes thèmes que le film? Et Solo, il dit ok, mais à ce moment-là, je veux vraiment faire comme Rap Attitude, essayer de mettre tous les groupes dans un seul album, et que ça représente vraiment qu'est-ce que c'était que le rap français. Et c'est là qu'il invite, lui il invite tout le monde, il invite NTM, IAM, Ministère Amer à l'époque, qui sont quand même un peu dans les ennuis. Et,
oui, parce que d'ailleurs c'est une musique qu'il y a dans la bande-son de La Haine qui va après créer problème avec des politiques, tout ça.
C'est Sacrifice de Poulet. Pas de bête, choqué par mille bêtes, est-ce que tu le sais ? Sacrifice de Poulet, c'est genre, c'est le morceau que, en fait, La Haine, ça a tellement créé des tensions entre, est-ce que, en gros, les bavures policières, socialement, comment on les gère, que finalement, le film en lui-même, ça va être un problème. Mais alors, le morceau qui est le numéro un de la compile de La Haine, qui s'appelle Sacrifice de Poulet, où t'as Stomy Bugsy qui part en sucette sur une émeute policière, enfin, une émeute et donc des grosses, on va dire, du lynchage de policiers en direct, ça a été un gros problème, et ça a même été un gros problème pour le groupe, parce qu'en fait, ça a tué le groupe, ils ont pris une amende énorme, et après, ils n'ont jamais vraiment pu remonter sur scène sous le nom de Ministère Amer, et ils sont devenus le secteur 1, Stomy Bugsy, Passy, et Doc Gynéco. Donc ça, c'était vraiment le gros fait de la BO inspirée, sur lequel on retrouve quand même tout le rap français, et en fait, c'était pas arrivé depuis Rap Attitude, et ça va lancer finalement une mode de compilation de rap français, et en fait ça c'est La Haine quand même qui l'a créé par petits ricochets, donc ça c'est assez cool. Et après sinon, la seule scène vraiment dont tout le monde se rappelle et qui est quand même symptomatique de c'est quoi le rap dans La Haine, c'est bien sûr Cat Killer.
Ouais. Qui joue et t'as des DJ. Bonnes infos là-dessus, parce que tu en as parlé il n'y a pas longtemps, apparemment,
ah ouais,
avec lui.
Ouais, c'est vrai, on en parle souvent. Enfin, après, on en a parlé pas mal de fois, hein, mais je lui avais demandé. En fait, on ne se rend pas compte, mais Cut Killer et East, ils ont joué dans Métis. À un moment, il y a un moment sur un playground où il y a genre une... un match de basket avec Kassovitz, il y a Hubert d'ailleurs à l'époque qui est dans le film, et ils sont en train de jouer au basket contre East et Cut Killer, qui se rencontraient à l'époque avec Casso. Ils lui ont demandé ce que tu peux jouer dans le film, il a fait ok. Donc à cette époque, Casso et Cut, ils se connaissaient déjà, mais pour représenter le côté DJ, parce qu'il voulait quand même mettre le hip-hop Kassovitz dans son film, donc il y avait de la danse, il y a un moment où il y a ce truc du tag de Saïd de la police, baisse de la police juste à côté de chez Guillaume, et il y avait et il y avait donc tout ce truc où il voulait ramener le DJ central, et il y avait une petite battle entre qui serait le DJ, est-ce que ce sera Cut Killer ou DJ Clyde, qui a un peu à l'époque les deux gros DJ qui commençaient à prendre, tu vois. Et il a réussi à l'avoir. Ça s'est tourné pendant 3 jours, vraiment, donc comme tu disais, à Chanteloup-les-Vignes. Et il dit, en fait, il y avait un hélicoptère et tout, donc c'était vraiment un truc assez compliqué. Finalement, il a fait une démonstration, mais le morceau n'était pas fait, en fait. C'est-à-dire qu'il avait juste fait une démo et il a filmé le fait qu'il scratchait et tout ça, mais finalement, le morceau, après d'avoir mis Edith Piaf avec Sound of the Police, et pas Assassin de la Police, de KRS-One, et de mélanger avec NTM, Nick la Police, et de faire ce truc, c'est une fois qu'il a senti comment allait être le film, que Cut s'est dit, ok, il faut que j'arrive à intégrer dedans d'une sorte de chanson française pour que ça puisse plaire à tout le monde. Que les gens qui connaissent, ils comprennent que c'est NTM, Assassin, et donc ça parle vraiment au hip-hop. Mais en même temps que du public lambda puisse saisir le délire de Edith Piaf, le truc du DJ, etc. Et ça, finalement, il va avoir l'idée après avoir tourné le film. Et finalement, ça va devenir un morceau un peu iconique du rap français, parce que tout le monde pense qu'il dit Assassin de la Police. Et pendant très longtemps, ça va rester une sorte de scène et de musique qui va devenir comme un hymne, alors que c'était un petit peu fabriqué de départ.
C'est bien, bravo.
Bah, rien. On a du travail là. Hein.
Bah oui, mais.
J'ai l'impression que t'aimes bien le rap, non?
Non, pas trop.
C'est ton truc, non?
Ouais, des fois où ça. Non. Mais ouais, j'aime bien.
Mais d'ailleurs, j'ai une bonne question pour vous, Mehdi et Anis. C'est quoi vos premiers souvenirs de rap, vous? Ce qui vous ont fait aimer le rap?
Vas-y, Anis, je t'en prie. Parce que moi, j'ai parlé sur un podcast de Guillaume il y a une semaine, j'en ai marre.
Ah oui, c'est vrai, exact.
Non, bah, c'est marrant. En plus, on en parlait un peu avec Mehdi là. C'est que.
Je parle de ça tout le temps, c'est terrible.
Ouais, il a que ça à dire. J'ai pas envie de parler de ça. Non, on disait qu'il y a un peu ce que t'écoutes malgré toi. Et après, il y a un peu un âge, on a dit aux alentours de 12-13 ans, où tu choisis un peu ce que t'écoutes, quoi. Après, ça dépend, mais...
Et alors, qu'est-ce que t'écoutais malgré toi au tout départ?
Malgré moi, moi, c'était pas trop du rap. Ma mère était très soul, R&B, etc. Du coup, il y avait le rap à l'école, mais chez moi, j'avais envie d'écouter Boyz II Men et tout, tu vois.
Ouais, mais ce truc de R&B, on le ressent quand même dans tes, dans tes stories ou dans tes trucs. Ouais. On sent que c'est vraiment l'inspiration première, non?
C'est un lover.
Ouais,
c'est vrai. Ma mère, elle était chanteuse. Donc, enfin, elle était choriste. Et t'as parlé de Tonton David et elle a chanté avec. Elle était choriste.
Incroyable. Oh là là! Ouais.
Du coup, c'est pour ça. Folles.
J'avais pas le choix de. Fallait que je représente la daronne.
Oh.
Et non, mais malgré moi, en fait, comme toi, j'ai grandi dans le 93, on n'était pas très loin.
Bravo.
Du coup, ouais, c'est inhérent à, voilà, à ce qui se passait dans mon école et tout. Et du coup, j'ai commencé à l'écouter malgré moi. Et après, à un moment, j'ai commencé à me dire, bon, vas-y, qu'est-ce que j'aime vraiment? Et ça coïncidait avec 113 à ce moment-là.
On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux.
Où tu veux.
Où tu veux.
Quand tu veux.
Quand tu veux.
Okay.
Et qui était partout et qui était vraiment trop bien, il y avait de quoi tout trouver. Donc ouais, mes vrais premiers souvenirs de rap, c'est quand, voilà, de moi-même, j'ai dit je veux acheter 113 et Cry Me a River de Timberlake. C'était ça.
D'ailleurs, c'est quoi le premier, petit tour de table, c'est quoi le premier album que vous avez acheté avec votre propre argent?
Moi, c'est un best-of, vraiment avec mon propre argent, de Will Smith et Jazzy Jeff.
Ok, quelle année?
Le best-of, je crois que ça a dû sortir vers 98, je pense, avant, enfin, genre au moment de Getting Jiggy With It, pardon, c'est genre Big Willie Style, son gros album. Voilà, mais je l'ai acheté à ce moment-là, en fait.
Tu l'as encore aujourd'hui ou pas?
Ouais, je l'ai encore, bien sûr. Ouais, il est important pour moi. C'est vraiment le premier truc que j'ai acheté à un mec qui s'appelait Grégory Dupuiche, à l'arrêt de bus de Noisy-sur-Oise. Non, moi, je vous donne des
anecdotes comme ça.
Et voilà, donc il le vendait, il a dit, ah, quelqu'un veut mon best-of de Will Smith, tu vois. Sauf que c'était Jeff and the Fresh Prince, c'était pas juste Will Smith, tu vois. Okay. Donc c'était un peu important.
Et t'as acheté ça en francs, du coup?
Évidemment.
Évidemment. Tu fais partie de notre bande, désolé. Et toi, Guillaume, alors?
Moi, c'était pas du tout du rap, c'était le Ballbreaker d'ACDC. Insane. Okay. Et pour me l'acheter, figurez-vous, j'ai revendu mes Marvel Comics bouquinistes de la scène et j'ai acquis ma petite somme et je suis allé acheter le Ballbreaker d'ACDC.
Alors tu sais que Kevin Smith a fait ça. Kevin Smith a vendu tous ses comics pour pouvoir réaliser Clerks. Ah, bah, donc t'es un peu un Kevin Smith dans l'âme.
Bah, c'est vrai, c'est vrai.
Et toi, Annie, c'est la première bonne que t'as acheté avec ton argent.
Moi, c'est... Enfin, c'est même pas un son qui a marqué
c'est
les gens. Non, c'est Jay-Z et Beyoncé. Ils avaient fait Bonnie and Clyde. Young me, cruising down the west side, highway, doing what we like to do. C'est le premier truc que j'ai acheté. C'était, ouais, je crois, 2002-2003.
Ah, c'est ça, 2002.
Et, et je me suis dit, oh, c'est fou, ils ont fait un feat et ils sont en couple. Et c'est le son qui a le moins marqué.
Comme ils l'ont fait, on savait pas. Enfin, ils se disaient que
oui,
c'était
voilà,
pas encore
c'est
en
ça,
couple.
Ouais.
Tu vois, il y avait des rumeurs, mais donc c'était le début de cette histoire.
C'est vrai.
Et toi, Aurélien?
Eh bien, moi, ça fait vieux, hein, mais, mais en vrai, je pense que vraiment, c'est Rapatitude.
D'accord. Le plus hardcore de toute la partie nord. Passer au passe, puis s'évapore.
C'est pour ça que je dis pas que je mens quand j'ai vraiment apprécié le rap. C'est genre, je sais pas, j'avais 9, 10 ans et le truc qui m'a pris, tu vois, c'était le rap. Je suis allé. Et en fait, il y a marqué rap sur la pochette. Donc, Rapatitude, nickel. Et en plus, vraiment, le clip de Tonton David, j'y repense très régulièrement parce que je le regardais, j'avais enregistré sur cassette et je le regardais en boucle et j'essayais de danser comme eux et j'avais refait les mêmes pas et je faisais tout le temps ça, je dansais tout le temps comme ça, c'était ouais, catastrophique.
Je me souviens à Noël, j'avais eu 200 francs et donc j'avais tout claqué à la et j'avais acheté 3 cassettes audio. La première, c'était Dangerous de Michael Jackson.
Ah ouais. Wow.
Extrait. La deuxième, c'était Ace of Base. Extrait.
Putain, Ace of Base, moi aussi. Ah,
et la troisième, c'était E17.
Oh là là!
Donc, ouais, je suis vieux de ouf.
Pas extrait, là. Hein? Pas d'extrait, en
vrai. Je suis pas très chaud.
C'était chaud.
Mais si, extrait, E17, c'est parti. C'est le moment musique de ce podcast. Et pour moi qui ai grandi à Drancy et à Bobigny dans le 93, je ne pouvais pas passer autre chose qu'un groupe qui vient de là-bas. C'est donc l'occasion de vous faire connaître un groupe qui s'appelle Soldat Fada, pour ceux qui ne connaissent pas. Et oui, un titre qui a maintenant 21 ans, intitulé Regret.
La vie est une chipie qui aime se faire draguer par la mort, ou par l'amour, mais où d'abord? Ici c'est la haine qui mène au score. Au secours, même mes frères veulent ma peau ici, ma poésie, pas de cohésion, du coup ils ont pris goût à ça un coup. Devant t'as une caïra, au fond t'as un bouffon, arrête un peu de jouer les durs mon gars, au fond t'as un bon fond. Banco, crois-moi, bientôt je freine banco, franco, camerounais, non coco, camerounais qui parle franco. Galère en futurim, prise de futurim, les trois quarts des meufs sont là par intérêt, les autres par intérim. La réussite nous passe sous le nez, on en parle mais c'est un peu comme la femme de Colombo, on la voit jamais. Je regrette d'avoir eu à faire un texte comme faux frère, mais malgré ça, toi tu continues, putain, faut le faire, copain. Eh, j'ai pas un copec, j'en parle pour oublier. Tu veux qu'on t'épargne, il faut un compte épargne de gros billets. Gros billets, c'est bien, mais fais gaffe, le réveil est rude. Le rap m'a braqué, j'ai dû lui filer mes études. La conscience est nausolée. Si tu oses te rebeller, tu seras ciselé. J'espère pouvoir de guerre séparer fils, père et mère. J'espère la paix sur terre, moi de misère. J'espère que religion, confession du monde entier seront respectées. J'espère pouvoir d'images d'église profanées et volées. J'espère que les gamins tentés par le banditisme de grand chemin prennent le bon chemin pour un meilleur lendemain. J'espère pouvoir de rinois grainés avec rien à grailler. Ni d'hommes politiques braillés, fanatiques défouraillés. Et pour finir, j'espère que l'avenir ne me fasse pas mentir. Que de Paris à New Delhi, la couleur de peau ne soit plus jamais un délit. Yeah.
Je regrette mes frères disparus trop tôt. Je regrette ma grand-mère qui m'a pas revu avant de monter là-haut. Je regrette d'avoir voulu boire un jour. Un jour. Je regrette d'avoir engrainé les potes à lâcher les cours. Je regrette le temps où je travaillais. Je regrette les soirées foirées par les renois qui s'enfouraillaient, se défouraillaient. Je regrette le jour où mes parents ont décidé de se séparer. Je regrette d'ailleurs un tas de choses que je n'ai jamais pu réparer. J'espère que demain on choisira le bon chemin. On sera bien, moi et les miens, pour qu'on avance enfin. Tous moi dans la main, frangin. J'espère quitter ces cités au grand tour. J'espère avoir des mômes pour les voir grandir jour après jour. J'espère ne plus voir les noirs et les arabes se planter. J'essaye de tout faire pour ma mère, mais j'espère qu'elle retrouvera la santé. J'espère ne plus perdre mon temps. J'espère que le rap me donnera les lots que j'attends depuis si longtemps maintenant.
C'était donc Regret du groupe Soldafada, titre issu de leur unique album Bobini Terminus, sorti en 1998. Et je vous conseille d'autres titres de cet album, comme N'oublie pas ou encore Faux Frères, qui sont très cool. Et d'ailleurs, la première phase du titre Faux Frères, c'est ça.
Aussi sincère qu'un vendeur de chez Crazy George.
Et pour ceux qui l'ignorent, moi j'adore cette punchline, parce que pour ceux qui l'ignorent, Crazy George, c'était une enseigne anglaise qui a débarqué en France à la fin des années 90 et qui a installé deux boutiques, une à Bobigny et une au Havre. Et en fait, ce concept avait fait les gros titres à l'époque parce que les méthodes de ce géant anglais étaient dramatiques. En gros, c'était deux boutiques dans lesquelles tu pouvais acheter des télés, des canapés, des machines à laver, etc. Et en fait, le truc, c'est que tu les payais 1 euro, donc tu lâchais 1 euro à la caisse et tu repartais avec la télé dernier cri. Sauf que le problème, c'est que tu devais signer un papier avant dans lequel tu consentais à la payer au final 60% de plus que son prix initial. Exemple, tu la payes sur 10 ans, mais au final, elle te revient à plus de 3000 euros au lieu de 1500. Grosse arnaque. Ça a fermé, il y a eu un procès, etc. Et je vous en parle parce que moi, ça m'avait marqué. J'ai des souvenirs de ça. J'étais allé et tout avec ma mère. Et c'était vraiment malsain car la boutique avait été implantée au cœur de Bobigny 2, qui est un centre commercial à Bobigny au milieu d'une cité. Donc, je pense qu'ils savaient très bien que les familles qui avaient peu de revenus allaient tomber dans le piège. Une grosse magouille. Du coup, la punchline aussi sincère qu'un vendeur de chez Crazy George, voilà, je l'avais adoré. C'était l'occasion de parler de cette affaire Crazy George que peu de gens connaissent.
Bravo, je connaissais pas, bravo.
Ouais, tu connais pas, mais c'était une grosse arnaque. Si vous tapez Crazy George sur Google, vous verrez qu'il y a plein de dossiers de l'affaire, etc. C'était assez fou à l'époque.
Incroyable.
Bref, si vous avez vu La Haine, vous avez compris qu'en banlieue, il faut un minimum connaître des bases de self-défense. Et si vous n'êtes pas du tout un gros dur, pas de panique. Car Guillaume en connaît un paquet sur le sujet. D'ailleurs, si je t'ai confié cette chronique, c'est parce que je sais que t'as fait du karaté et que t'as tout à nous apprendre.
Bien entendu, messieurs, comme vous le savez, avant d'être un amuseur doublé d'un homme de science, c'est haut comme trois pommes que j'ai débuté mon apprentissage du karaté Shotokan. En effet, dès le plus jeune âge, c'est au dojo du 15e, sous la houlette de mon sensei, Alain Toubas, que j'envoie mes premiers mawashi pieds nus sur le tatami dans mon kimono décathlon. De longues heures à réviser mes katas et à parfaire mes kiai, m'ont permis d'accéder à force de travail et d'abnégation à la ceinture verte à l'aube de mes 11 ans. Âge qui marquera aussi mon entrée en 6e et la fin de ma carrière dans les arts martiaux, tel un aigle royal stoppé en plein vol. Alors, quand JB m'a proposé cette chronique, je suis parti pieds nus en retraite spirituelle pour renouer avec ces techniques ancestrales. J'ai marché jusqu'au sommet des montagnes, là où seul règne le vent et le silence. Je me suis perdu au péril de ma vie dans de lointaines contrées, jusqu'alors inexplorées. Car comme l'a dit Bruce Lee, que j'ai vu apparaître dans mes songes, la vérité n'a pas de chemin. La vérité est vivante et par conséquent changeante. Et la vérité, messieurs, c'est qu'on est là pour parler baston, putain! Spécial dédicace pour les amateurs de bourre-pif, de mandales, de taloches, des pains dans la gueule, les bastonneurs, les durs à cuire, les blousons noirs, les offensifs, les belliqueux, tous les mecs qui se laissent pas faire, qui ont la moutarde qui leur monte au nez, avec qui ça rue dans les brancards. On parle de combat de combat sans règle, de coups de genou dans la gueule, des chaînes de vélo, des coups de poing, des coups de boule, bref! Vous êtes nombreux, auditeurs de ce podcast, à être des grosses victimes, et j'ai reçu un message de Donatien64 qui me demande:
Guillaume, comment fait-on pour se défendre dans la rue ou au collège? Dimitri ne fait que de me chercher des noises.
J'ai entendu ton appel, Donatien, et j'ai listé pour toi des arts martiaux méconnus qui devront faire de toi un adversaire redoutable à quiconque tentera de voler ton goûter. On commence tout de suite avec le bokator, aussi appelé la boxe du lion. C'est un art martial cambodgien, vieux de plus de 2000 ans. Il a été créé par des fermiers pour se défendre des dangereux prédateurs comme les lions et les tigres. Toutes les parties du corps peuvent être utilisées, les genoux, les coudes, les hanches ou la tête sont nécessaires pour neutraliser ou soumettre l'adversaire. On utilise aussi des armes blanches ou des foulards pour se battre. Je peux te dire, Donatien, que si tu sais te taper avec un tigre, c'est pas Dimitri qui va réussir à te piquer tes cartes Pokémon. On enchaîne avec l'Okishitao, l'art martial relativement nouveau car il a été créé dans les années 90 par Georges Lépine, un grand maître des arts martiaux au Canada. Il s'est inspiré des Indiens de son pays d'origine pour créer cette discipline. On y apprend le maniement des couteaux, des tomahawks et autres armes dangereuses. C'est considéré comme un art martial mortel. Dans les écoles d'Okishitao, on apprend les meilleurs moyens d'ouvrir un corps de quelqu'un avec un couteau ou un fusil. Il n'y a donc pas de compétition dans cette discipline puisque le résultat, c'est la mort. Bon, c'est peut-être un peu vénère d'ouvrir Dimitri en deux s'il te pique ta trousse, donc on va passer à la suite. Le Bacom. Le Bacom, c'est un art martial du Pérou créé par un ex-commando de l'armée péruvienne. Le but de cet art martial est simple. Il faut tuer ou blesser son adversaire en un minimum de temps.
l'utilisation des armes est autorisée. La douleur est essentielle dans les combats de Bacôme. Il faut que l'adversaire éprouve un maximum de douleur. Beaucoup de morts à déplorer lors des combats. Donc, il n'existe pas de compétition dans cette discipline non plus. Bon. Donatien, je ne voudrais pas que tu croupisses en prison pour une sale histoire de place à la cantine, donc je te propose de revenir à la base. Le karaté Shotokan. Une discipline basée sur des valeurs simples. L'honneur, la loyauté, le courage, la sincérité, la bonté, le respect et la bonne humeur. Grâce au karaté Shotokan, tu pourras dire à Dimitri que ça ne se fait pas trop ce qu'il fait. Et ce serait bien qu'il arrête. Et il arrêtera sûrement dans le respect et la politesse. En tout cas, sache que si tu persévères dans les arts martiaux, tu rejoindras le club très fermé des ceintures noires dont beaucoup de stars de cinéma font partie, comme Steven Seagal, 7e dan d'aïkido, Chuck Norris en taekwondo, Elvis Presley, ceinture noire de karaté,
ouais.
Sean Connery, ceinture noire de karaté, Sarah Michelle Gellar de Buffy contre les vampires, ceinture noire en karaté, Wesley Snipes, ceinture noire en karaté, 7e dan, Forest Whitaker, karaté Kempo, Ed O'Neill, Al Bundy dans Marié deux enfants, qui est ceinture noire de jujitsu, évidemment, notre dieu à tous, Jean-Claude Van Damme,
ah oui.
Ceinture noire de taekwondo. Bonne chance dans ta quête de vérité, Donatien, ton honorable Guillaume.
Joli, bravo.
Bravo.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes années karaté, Guillaume? Parce que moi, c'est ça qui me régale. Hein.
Figure-toi que j'ai commencé le karaté. En fait, j'ai un grand frère, ok. Et mon grand frère, il a fait du foot. Et je me suis dit, bah, je vais faire comme mon grand frère, je vais faire du foot. Et puis après, il a arrêté le foot, il a fait du karaté. Du coup, j'ai fait, bah, je vais faire comme mon grand frère, je vais faire du karaté. Et je me suis mis au karaté, mais j'étais vraiment un bloc dedans. Genre, je lisais Karaté Bushido, j'avais des posters de. Je me rappelle, j'avais le poster de Chasse à l'homme dans ma chambre quand j'étais petit et tout. J'étais vraiment à fond. J'allais au Festival des Arts Martiaux, à Bercy, etc. Et donc, je suis allé jusqu'à la ceinture verte. Et arrivé en sixième, c'était soit j'ai commencé la batterie, donc soit faire de la batterie, soit du karaté. Et ma mère, elle a dit, bah faut que tu choisisses. Et j'ai choisi la batterie. J'ai arrêté ma carrière en plein vol comme un aigle.
Aïe.
Mais j'étais vraiment, je faisais des retraites et tout avec mon frère dans la campagne et tout. Hein. J'étais à fond. Mon gars. J'étais vraiment à fond. Mais bon, ça c'est vite terminé.
Est-ce que vous avez déjà eu des histoires de baston autour de cette table?
Ah.
Est-ce que ça s'est déjà tapé?
Moi, c'est pas très street crédible du coup, mais absolument pas. Hein. Je suis vraiment pas. Je suis pas un bagarreur quoi.
Non, pas de bagarre.
Non.
Guillaume, on a déjà
j'ai fait du judo par contre.
Ah ouais. Ah, j'ai fait du judo, mais ça me sert à rien.
J'ai une histoire fait du judo. Moi, une histoire elle est plus catastrophique que celle de Guillaume, parce que Guillaume en vrai, il a quand même fait des retraites dans la campagne. Tu vois. Moi, j'ai fait un an et j'ai arrêté parce que donc je devais avoir je sais pas 7-8 ans et on faisait tout le temps des roulades et en fait j'étais très malade petit fils que donc en fait à chaque fois à la fin de chaque séance j'avais envie de vomir. Donc j'ai arrêté le judo parce que ça me donnait envie de vomir. Voilà.
Mais c'est une bonne technique.
C'est
un
là où
combat.
On voit à quel point je ne suis pas bagarreur. Donc je faisais que des roulades avant, c'était chiant de ouf. Donc bref, voilà.
Anis, est-ce que tu as déjà eu des histoires de baston?
Ouais.
Parce que en fait, si je pose cette question, c'est parce que moi je suis très friand de tes anecdotes du dimanche. Et y a-t-il des histoires de collège, de lycée comme ça, de baston, de trucs, etc. Est-ce que t'as une bonne pour nous, une bonne anecdote
d'ailleurs,
de baston?
Est-ce qu'on peut dire qu'en vrai, Anis, c'est celui qui a le boss français, je pense, en story Instagram?
Ah ouais, carrément.
C'est vrai.
En tout cas, il est
très fort.
Il est scénariste.
Chaque semaine, il y a un thème, c'est le boss.
Scénariste.
C'est le boss.
Merci. Ouais, je me suis beaucoup battu, mais. mais dans l'époque très enfin, j'ai eu un gros ratio collège et lycée, j'ai grandi d'un coup et je me suis dit, ah, c'est con de faire ça. Mais je me rappelle la dernière fois que je me suis battu.
Ah.
Et ça, je l'ai pas raconté dans l'anecdote.
Ah.
C'est marrant, je m'en souviens trop bien de la date parce que
c'est une anecdote exclusive pour le podcast.
Je me souviens trop de la date parce que c'était la fin du monde des Incas là. Donc c'était en 2012 et je crois que c'était le 12 décembre,
c'est un génial, truc comme
ça. Et ça m'a trop marqué et en fait au final, il y avait pas de fin du monde, il y avait juste plein de soirées. Je sais pas si vous vous rappelez. Du coup, il y avait soirée 2012 et tout. Donc j'étais allé à une soirée etc. Et en fait, une soirée assez loin dans le 7-7 et c'était une soirée, il y avait aucune meuf et moi j'étais allé avec ma meuf. Bon voilà, déjà il y a un bon postulat de départ pour se battre, c'est qu'en fait ma meuf c'était la seule meuf, donc tout le monde draguait ma meuf. Et plus la soirée avançait, plus les gens avaient d'autres techniques, étaient alcoolisés etc. Et il y avait un mec bah, sans scrupules, il dansait en même temps que moi avec ma meuf. Donc on faisait des chorés de Chumpo à deux comme ça, et du coup je voyais bien qu'il était très bourré, donc je lui ai dit laisse tomber, bon, va-t'en, laisse tomber etc. Et au bout d'un moment, je sais pas, c'est lui monté dans sa tête, il m'a attaqué par derrière. En mode, je pense que dans son historique de mec bourré, il s'est dit, mais j'ai dansé avec elle, elle me veut. Tu vois, il a dû se dire tout ça parce que c'était fou. Il m'a attaqué par derrière et tout. Et là, Franchement, moi, j'étais obligé de le défoncer. Là, c'était le truc de trop. J'avais dit trop de fois, laisse tomber. Et du coup, tout le Anis du collège, il l'a sorti. Je l'ai. Enfin, c'est facile à battre un mec bourré. J'ai pas à me penser.
Faut souffler.
J'ai craqué, ouais. Alors, en mode fin du monde 2012.
Alors que le pauvre, il pensait que c'était la fin du monde. Il s'est dit, je tombe tout pour
dernière meuf.
Génial de se dire ça. Le mec se dit, bon, attends, je vais y revenir. Normalement, je peux la pécho. Non, mais c'est mec, mais je pense qu'il y a moyen.
Avec le recul, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit qu'en fait, lui, dans son historique, il a dû se dire, attends, mais là. J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. J'ai frotté avec elle. Et pourquoi il me fait chier, lui? Tu vois, dans son monde, dire, qu'est-ce qu'il veut, lui? Putain, c'est pas vrai, ça.
Trop
non, il avait juste trop bu. Et du coup, c'est la dernière fois que je me suis bu. Et, enfin, que j'ai bu. Et, enfin, que je me suis tapé en ayant autant bu. Les deux combinés. Et je me suis. Et le truc triste un peu, c'est que c'était la pote de ma meuf qui a organisé cette soirée nulle. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés là. Et du coup, elle m'a dit de partir de la soirée après que. Tu sais, elle n'a pas pris parti pour moi.
Non.
Comme j'étais extérieur, elle a dit non, bah si tu crées des problèmes, je suis désolé, je vais te demander de partir. Et je suis parti à 2h30. Non, on est partis tous les deux à 2h30, pas trop tard, dans le 7-7. On a marché, quoi. Bon, c'était la fin du monde, 2012. Les Incas avaient raison.
Et toi, Guillaume, je sais que t'es un bagarreur aussi.
Alors, je sais où tu veux m'emmener et on va y aller tout de suite. Tu m'as emmené sur une histoire où j'étais en primaire, c'est ça? C'est celle-ci dont tu veux que je te parle?
Le jour où tu me l'as raconté, ça m'a régalé.
Alors, figurez-vous qu'en primaire, il y avait. Il n'était même pas dans ma classe, en fait. Il y avait un mec dans cette école qui s'appelait Malunga. Ok? Et Malunga, c'était genre une sorte de Shaquille O'Neal de CM1, tu vois. Genre, il était en CM1, mais dans ma tête, il avait 16 ans, tu vois. Il était plus grand que les maîtresses et tout. C'était un énorme gars. Et tout ce que je savais, c'est qu'il n'était pas dans ma classe, mais tu sais, je crois qu'il savait pas lire et tout. C'était vraiment genre une sorte de grosse brute et tout. Et je me souviens d'une récré. Où en fait, il allait de groupe en groupe et il mettait juste des tartes, tu vois.
C'est
vrai. Comme nous, on était petits, on était là, attends, il y a Malunga qui arrive. Et moi, à un moment, il m'a mis une tarte, tu vois. Mais genre, je sais pas, dans ma tête, il était genre 15h, tu sors de l'école à 16h30, et j'étais encore rouge, quoi, tu vois. Et je rentre, il m'a mis une méga tarte. Et tu sais, tu peux pas riposter, Malunga, il fait deux têtes de plus que toi, t'es, oh, c'est des ennuis, c'est vraiment des ennuis pendant longtemps, tu vois. Et du coup, je suis rentré, et tu sais, c'était comme. Tu sais, une époque, je sais pas pourquoi, tu vois, tu dois regarder des films d'action alors que t'as 8 ans, tu vois, et tu te dis, non, je dirais pas ce qui m'est arrivé, tu vois. Alors que, tu sais, ta mère, elle fait, mais pourquoi t'es tout rouge? Ah, je peux pas en parler. En fait, tu peux très bien en parler. C'est les petits qui nous écoutent, vous pouvez en parler, c'est nul, en fait.
Oui, parce qu'en fait, si j'aime bien cette histoire, c'est parce que quand on est petit, les mecs, ils nous paraissent tellement immenses, on est là, mais non, mais ça va créer des problèmes. Alors qu'en fait, tes parents, ils ont juste à venir et faire, bon, bah, de frapper mon fils et tout.
Exactement ce qui s'est passé. En fait, je lui ai dit, ouais, bah voilà, il y a un mec dans mon école, il m'a mis une tarte et tout. Elle fait, ah ouais, bah, je vais aller le voir demain. Et je te dis, non, surtout pas et tout. Et tu penses que ça va t'apporter des problèmes de ouf alors que t'es en CM1, tu vois. Et en fait, aller voir le grand Malunga à la sortie. Et effectivement, c'est comme Mehdi, quoi. C'est pas du tout bonhomme ce que je raconte, mais bon, ma mère, elle allait voir Malunga, elle lui a dit, bah, tu vas arrêter de taper mon fils, c'est pas possible et tout. Elle fait, pardon et tout. Et il m'a jamais retapé. En fait.
Bah comme quoi ça marche.
Comme quoi ça marche. Donc bravo maman, merci maman. Et voilà, je me suis battu via l'intermédiaire de ma mère. Et voilà, merci quoi.
Moi j'ai quelques histoires de baston.
Ah ouais, toi oui.
Je me suis fait défoncer toute ma vie. Non, j'avais une première histoire de un petit racket quand j'étais au collège. Et en fait, l'histoire est drôle parce que j'étais en sixième, première fois que j'arrivais au collège, donc c'est un peu le monde des grands, etc. Et en fait, j'avais un pendentif verso. Ah. Bien victime d'avoir ça déjà, tu sais, avec le signe du verso au bout.
C'est quoi le signe du verso?
Mais je sais pas, c'est une meuf qui verse de l'eau. Et en fait, des mecs m'avaient volé mon pendentif. Et du coup, je connaissais un mec dans mon collège qui les connaissait. Du coup, le lendemain, j'étais allé voir en disant « Ouais, tu peux pas faire en sorte de récupérer mon pendentif, etc. » Et il m'avait sorti cette phrase qui m'avait fait « Trop tard, ils en ont fait une boule d'or. » Ils avaient pris de la soudure ou quoi, ils avaient fait une boule d'or.
Ah ouais,
d'or.
Ils sont chauds.
Ouais, du coup, je trouve ça marrant, en fait, la boule d'or.
Mais surtout, la technique de « Excuse-moi, tu peux pas leur demander ?» Ça marche.
Ouais, non, ça marche.
Jamais un mec a fait « Ah ouais, bah, pardon, j'y vais tout de suite. »
Non, ça marche. Et j'avais un mec qui s'appelait Nicolas Dorson dans mon collège. Et pareil, je pense qu'il avait redoublé 3-4 fois, etc. Il était immense, ce mec. Et un jour, en fait, les mecs de mon collège, ils aimaient bien, genre, engrainer les bastons. Genre, ouais, attends, je crois qu'il a parlé sur ta mère, etc. Alors que pas du tout. Très relou, les ambiances comme ça, tu vois. Et les mecs, ils vont voir Nicolas Dorson, ils disent, ouais, il a parlé sur ta mère, machin et tout. Et moi, je dis, non, mais pas du tout, j'ai rien dit. Moi, j'étais en train de manger à la cantine. C'est tranquille. Et Nicolas Dorson qui fait, quoi, t'as parlé sur ma mère, etc. Bon, vous voyez, classique, ça s'embrouille, etc. Et là, je me dis, merde, je me suis jamais battu de ma vie. Il faut que je me tape avec Nicolas Dorson qui est méga grand. Et là, je me dis, bon, bah, faut y aller en premier, quoi. Donc, je vais mettre un chassé, puis on verra qui vivra, verra. On verra ce qui se passe. Et je mets le chassé, et en fait, par miracle, le mec, il trébuche, il tombe par terre, il se cogne la tête contre le mur.
Ah ouais.
Oh.
Et en fait, là, je me dis, bon, bah, il va se lever, il va me défoncer de ouf, quoi, tu vois. Et c'est la surprise, il a peur, en fait. Ouais. Donc, t'as tous les mecs à côté qui font, wow, JB, il a défoncé Nicolas Dorson et tout, tu vois.
C'est bon, ça.
J'étais le héros à ce moment-là.
C'est comme George McFly avec Biff, quoi.
Mais oui, mais c'est exactement ça, tu vois. Et du coup, il m'a pas fait chier et je suis devenu la légende qui a battu Nicolas Dorson.
C'est bon, ça.
Et du coup, voilà, c'est histoire. Mais Nicolas Dorson, si t'écoutes, t'aurais pu me défoncer easy, quoi. Franchement, tu te serais enlevé, tu m'aurais défoncé de ouf.
Comme quoi, un bon chassé.
Mais ouais, tu vois, un bon chassé, ça marche.
Un bon chassé, ça marche de ouf.
Est-ce que vous voulez quelques petites infos vidéostoriennes sur la haine?
Oui. C'est quand même pour ça qu'on est venu à ça.
Oui, des bonnes infos sur la haine. Alors figurez-vous qu'au collège, j'avais un de mes meilleurs amis qui s'appelait Nassim, qui est encore un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Et en fait, s'il écoute, désolé, je dois le dire quand même, mais il avait quand même un peu la manie de raconter pas mal de mythos. Son plus grand mytho, c'était, on va juger autour des tables, c'était un mytho, parce qu'on s'en a jamais su au fil des années. Un jour, il m'avait dit qu'il était allé au Prise Unique, à l'époque c'était le Prise Unique,
ouais,
qui était le Monoprix, l'ancêtre du Monoprix. Il était au Prise Unique pour s'acheter des trucs, et quand il est revenu, une rue à côté de chez lui, il y a une meuf qui l'a plaqué contre le mur, et qui lui a dit « Toi, je te veux !» Et elle l'a embrassé. C'est un mytho ou pas?
Moi, ça m'est arrivé, donc...
Ah oui, donc c'est pas mytho.
Ça se peut.
C'est pas mytho. Et donc, comme il balançait quelques petits mythos, on savait jamais vraiment sur quel pied danser avec lui, etc. Et un jour, il nous avait dit « Bah moi, en fait, mon cousin, il a bossé sur la haine, et moi, j'ai la haine en couleur. » Mais ça, c'était la légende.
C'est génial.
Non, mais dans la cour de récré, c'était la légende, parce que lui, il avait la haine en couleur. Tout le monde le voulait, tu vois. On était là, genre, vas-y, finis-nous la cassette, la haine en couleur et tout, c'est trop bien et tout. Et on s'était dit, ouais, bon, finalement, t'as un mytho et tout, c'est le film en noir et blanc, il peut pas exister en couleur. Et en fait, des années plus tard, sur YouTube, je me suis rendu compte en faisant des recherches que la haine existe en couleur, en fait. Il y a des plans qui existent en couleur. Maintenant, j'ai le doute, en fait, je sais plus si c'était un mytho ou pas, tu vois.
Ça se trouve, il avait vraiment la haine en couleur.
Mais ouais, en fait, c'est comme Pierre et le Loup, tu vois, il a balancé trop de mythos, plus personne ne le croyait, mais il avait la haine en couleur, peut-être.
C'est marrant, juste parce que moi, j'ai une anecdote comme ça sur un pote à moi qui mentait tout le temps. Et un jour, on lui dit, ah, ok, d'accord. Et du coup, toi, tu l'as vu, The Mask 2? Et il nous a dit, bah ouais, je l'ai vu, il est trop bien et tout. Évidemment, The Mask 2 n'existe pas, en tout cas à l'époque, parce que maintenant après, je crois qu'il y a eu une
histoire. Oui, c'est le chien de...
Voilà, ouais, de... Ouais, à l'époque, on parlait de The Mask 2 avec Jim Carrey, tu vois, genre c'était un an, et le film n'existait pas. Donc il y avait, tu sais, quand on était petit, il y avait toujours des mythos de ouf comme ça.
Mais quand vous avez dit ça, il a dû être effondré, le pauvre.
Bah en fait, je sais plus après comment ça s'est fini.
Vous avez tout détruit.
Genre, ce qui nous avait plus fait rire, c'était genre son attitude en mode. Et je te jure qu'à un moment, je crois que je me suis dit, ça se trouve, ça existe. Parce que t'es tellement convaincant dans ces mythos.
Est-ce que vous lui avez demandé le pitch du film ou pas? Parce que là, non, il aurait été obligé d'inventer un truc.
Ah, c'est bon, je me souviens juste qu'on lui avait posé la question et qu'il avait dit, bien sûr, je l'ai vu, tu vois, et que ça m'avait marqué dans comment le mec est, tu vois, s'attachait à ses mensonges.
Et d'ailleurs, dans le même genre, ce fameux pote Nassim, il commençait ses phrases à chouer, aller voir des gens, et il commençait ses phrases toujours par la même punchline, il disait, il m'est arrivé un truc de ouf hier. Et tout le monde tombait dans le piège de dire, ah ouais, c'est quoi et tout. Et un jour, avec mon pote Mehdi, on s'est dit, ok, alors, ce qu'on va faire, on va rien dire, et on va voir ce qui se passe. Et là, il fait, il m'est arrivé un truc de ouf hier. Silence. Bah du coup, il a rien dit, il a même pas raconté son truc. C'était encore un mytho, j'imagine.
Un peu comme Saïd dans le film, d'ailleurs.
Ouais, oui, c'est vrai.
Saïd dans le film, c'est comme ça.
Exactement. Donc voilà, donc la première info, c'est qu'il existe des plans de la couleur, de la haine en couleur. Et si vous tapez la haine couleur sur YouTube, bah, vous trouverez des séquences. Et du coup, c'est assez bizarre de les revoir en couleur.
C'est un peu comme le vache les prisonniers, tu sais. Ils ont colorisé.
Ah, je savais pas ça.
Ah bon?
Bah, tu m'en apprends une bien.
Mais c'est fou comment c'est un défaut pour. Quand on était jeune, ouais, que ça soit en noir et blanc.
Exactement,
genre, c'est chiant, on voulait le réparer.
De
genre,
ouf.
Ah, il est cassé ce film.
C'est vrai.
Mais même encore aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que ça rebute pas mal de gens de regarder des films en noir et blanc. Genre, c'est en noir et blanc, oh, la flemme. Alors qu'il y a des films extraordinaires en noir et blanc, finalement. Autre info, en fait, Mathieu Kassovitz a toujours voulu appeler son film La haine. Sauf que, au moment de demander des autorisations de tournage, eh ben, ça dissuadait un peu la mairie, tout ça, ils voulaient pas trop lui donner des trucs. Du coup, ce qu'ils ont fait comme technique, c'est de dire aux autorités, aux gens de la mairie, qu'ils allaient appeler le film Droit de cité. Donc, en fait, pendant longtemps, le film, il s'est appelé Droit de cité. Et d'ailleurs, il y a des plans qu'on peut retrouver sur les claps avec écrit Droit de cité au début, pour pas placer la haine.
Ça aurait eu beaucoup moins d'effet, hein. Droit de cité.
Non, mais en vrai, il y a un petit jeu de mots, en vrai, tu vois.
Ouais, mais d'accord, mais bon.
Bon, on aurait dit une émission avec Mireille Darc, là.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai, ça fait vraiment ça.
Genre.
Mireille Mathieu, je crois, plutôt.
Non.
Mais donc voilà, donc la haine, c'est droit de cité.
Mireille Dumas.
Encore une preuve qu'on est très vieux.
C'est clair.
Mireille Darc, c'est plus vieux que Mireille Dumas.
C'est clair.
Autre info, 2 mois avant, en fait, les acteurs du film, plus Mathieu Kassovitz, ont vécu dans la cité qu'on peut voir dans le film.
Muguet.
Exactement, c'était des Muguets, ça ouais.
Muguet, non
Muguet.
Muguet.
Et en gros, ils ont vécu 2 mois dans cette cité parce que ce qu'expliquait Kassovitz, c'est que lui, en fait, les autorisations de tournage, en gros, ils s'en foutaient. Ce qu'il fallait, c'était avoir les autorisations des mecs qui vivent dans la cité, en fait. Plus que d'avoir les autorisations de tournage. Du coup, ils ont vécu 2 mois avant et en fait, Kassovitz a balancé une info que je trouve assez marrante. En gros, ils vivaient ensemble dans le même appart, tous les quatre. Et il expliquait que Hubert faisait les courses, que Vincent Cassel faisait la cuisine, que Kassovitz faisait la vaisselle et que Saïd, lui, mangeait. C'est tout. Voilà. Ils ont dit que lui, il n'avait pas de tâche. Je trouvais ça assez rigolo. Sinon, autre info, on n'y pense pas souvent, mais dans le film, il y a des acteurs méga connus. Il y a Benoît Magimel qui joue dedans.
Ouais,
on voit Vincent Lindon à un moment donné.
Il y a Karine Viard aussi.
Exactement.
Karine Viard, j'étais pas sûr parce que j'ai vu le film ce matin. C'est très frais. Et je fais, elle lui ressemble vraiment, elle parle vraiment comme elle. Mais elle est de profil, donc on n'est pas. Et en fait, c'est vraiment elle.
Je crois que c'est la scène où ils sont dans l'expo.
J'ai quoi toute cette violence ?
Question pour toi. Je crois, mais je sais pas si on pourra avoir la réponse aujourd'hui. Je crois qu'au tout début du film, t'as un plan sur les flics, tu vois, qui sont là. Je crois que c'est Vince qui les regarde. Et je crois qu'on voit, c'est dans le cinquième élément. Il y a Ian Holmes qui joue le prêtre, c'est ça, seulement d'accord. Et il a un disciple avec lui.
Ouais.
Tu vois, et je crois qu'il joue un flic en arrière-plan, mais on le voit genre une seconde. Je suis quasi sûr que c'est.
Mais c'est possible parce que comme c'est Besson.
On voit Kassovitz dans le cinquième élément, etc. Ouais. Tu vois, je me dis, ça se trouve, voilà, c'est une info. Peut-être qu'un fan de Tabs pourra nous donner la réponse.
Une info à vérifier, je suis déçu de ne pas l'avoir. Je suis très déçu de moi. Mais c'est très technique.
C'est très technique, on voit vraiment à peine, mais je crois l'avoir reconnu.
Une info qui est très cool, c'est que dans le film, il y a un fameux personnage dont on se souvient tous qui s'appelle Astérix. Le mec un peu fou. Et en fait, ce film, il a eu une vie ailleurs qu'en France. Il a aussi une vie aux États-Unis. Et dans la version américaine, ils ont changé Astérix par Snoopy.
Ah, c'est marrant.
Donc en fait le mec s'appelle Snoopy. C'était exactement la réaction que je voulais. C'est exactement ce que je voulais.
Cet acteur qui joue dans Chétan, autre lien avec
ça combine comme le jeu à la nantaise, FC Nantes 95-96.
Il a vraiment dit pour moi celle-là.
Dernière info, Jodie Foster qui fait le film, et du coup c'est un peu la marraine du film, c'est un peu comme ça que l'a appelé Mathieu Kassovitz. Et Jodie Foster, elle a fait un truc qui était très cool dans les années 90. Elle a appelé Kassovitz et lui a dit, bon regarde, ton film je le kiffe, et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire parvenir à Scorsese, Coppola et Spielberg des copies du film. Elle l'a fait, elle a envoyé la cassette à ces trois immenses réalisateurs, et parmi ces trois réalisateurs, il y en a un qui lui a répondu, à votre avis lequel ?
Scorsese.
Spielberg.
Lesquels ?
Spielberg, Coppola, Scorsese.
Scorsese.
C'est un mec de la street.
Ouais.
Si j'ai posé la question, c'est parce que je savais que vous alliez tomber dans le piège et dire Scorsese. Non, figurez-vous que c'est Spielberg. C'est Spielberg qui a répondu et qui lui a envoyé une lettre que Kassovitz conserve.
Ah, c'est ouf.
T'as comment t'es sûr de nous ?
Ouais. Non, Spielberg, c'est un mec très curieux. Genre, je le connais. Il est très curieux.
Steven, c'est un bon pote. Non, mais il est très ouvert.
En fait, on pourrait croire que Spielberg, c'est genre E.T., Jurassic Park, etc. Mais je rappelle que c'est un des mecs qui a poussé pour que ce soit La Vie d'Adèle qui gagne à Cannes. Donc il est quand même très poussé sur
et
les films indés comme ça.
C'est aussi à cause de Lane qu'il a fait La Liste de Schindler en noir et blanc. Ouais.
Ça c'est pas une info.
C'est moi le mytho de la bande en fait.
Parce que le meilleur pote du JB évidemment que c'est Guillaume. Il n'existe pas sur la film.
Mais c'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup dans Video Store parce que sinon il balancerait des infos comme ça.
Tu pourras me la prêter Lane en couleur.
Et donc voilà, Spielberg a envoyé une lettre pour dire je trouve ce film formidable, il est incroyable, etc. Donc quand Spielberg te répond ça sur ton film, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs pour
en plus Kassovitz devait être fan de Spielberg.
Oui, forcément. Et d'ailleurs dans le même style, donc le prochain film qui sort mercredi, Les Misérables, il y a déjà Michael Mann et Spike Lee qui ont vu le film et qui ont adoré. Donc déjà quand ton film il est soutenu par Michael Mann et Spike Lee, c'est quand même pas mal.
J'ai bien hâte de le voir.
Moi je me souviens juste pour revenir sur Kassovitz parce que en fait, maintenant, c'est Kassovitz, j'ai l'impression que le personnage a un peu dépassé le cinéaste, tu vois, et que je sais pas si beaucoup d'entre nous genre sont excités par un nouveau film de Kassovitz. Par contre, enfin, c'est plus un acteur d'ailleurs, le Bureau des légendes, il est excellent dedans, etc. Une interview de Kassovitz, on va tous la mater, mais un film, je sais pas. Mais moi, je me souviens, parce qu'on parlait de Mireille Dumas, c'est un épisode de Ça se discute où il y avait Kassovitz qui était donc Jean-Luc Delarue. Il y avait Kassovitz qui était invité, et il avait été élu, genre c'était vers fin des années 90, par Newsweek comme une des 8 personnalités qui allait faire l'an 2000. En fait, on a zappé maintenant, mais comment, genre à la fin des années 90, même avec Assassin, parce que Assassin, c'est un film qui a été décrié, moi que j'aime pas, mais qui a fait polémique. Et genre, c'était vraiment genre le réalisateur qui devait bouleverser le cinéma européen, tu vois. Et bon, après, il a fait Gothica et Babylon A.D., mais mais en vrai, genre la hype autour de lui, mais je l'aime bien, les Rivière Pompe, s'il a plein de défauts. Mais c'était vraiment ouf, quoi, Kassovitz à l'époque, de se dire c'était le nouveau prodige du cinéma français, quoi. Et maintenant, on a complètement zappé ça pour plein de raisons, mais voilà.
Et d'ailleurs, tu me fais penser, en fait, il y a une vraie connexion Spielberg-Kassovitz, parce qu'après, il a joué avec lui dans Munich. Donc peut-être que ça part de là.
C'est vrai.
Et tu fais bien de parler d'Assassin, parce que Assassin, c'est un film dont personne ne parle, que moi aussi, j'ai pas beaucoup aimé, mais pour d'autres raisons. Parce que j'ai rarement vu un film aussi violent, un film qui m'a choqué autant dans ma vie. Et en plus avec un immense acteur parce qu'il partage
Michel Serrault,
avec Michel Serrault. Ouais, et il y a des scènes qui sont extrêmement dures à regarder. Je me souviens d'une scène avec une personne âgée au début. Ouais. Et moi, c'est un film, je l'avais vu, j'étais ado. Et ça m'avait choqué. Mais il y avait ce truc quand même avec Kassovitz où je me disais, OK, le mec, il a fait La Haine, il a fait Assassin. Et à chaque fois, il fait des films qui font parler, en fait. Mmh. Ça, c'est un truc qui me rendait fou à l'époque.
Il y avait un truc intéressant quand même dans tous ces réels français, parce qu'en fait, même Doberman, de Kuhn, tu sais, il y avait genre, il se passe un truc où.
C'est vrai.
Ah, parfois, il y avait peut-être un truc, genre choqué pour choquer, genre Doberman, c'était un peu ça, même si c'est un film que j'aime beaucoup, pour le coup. Mais tu vois, il y avait vraiment un truc visuellement qui se passait, et les mecs osaient, et il y avait vraiment un truc de génération, quoi. Et voilà, donc c'est des films qui, je trouve qu'ils sont intéressants à revoir, parce que même c'est une photographie sur eux-mêmes les années 90, en fait. La Haine, évidemment, même les autres, même un film Doberman qui est genre un peu. Qui est décalé, tu vois. Et en fait, c'est vraiment une indication sur.
Un peu de Besson, hein.
Ouais, ben, c'était plus
après, 80 produits, tu vois. Ouais. Ça, tu vois, mais.
Et du coup, c'est intéressant à voir, quoi.
Mais c'est aussi là à quel point on voit que le collectif Courtrage-Mé était intéressant parce qu'aujourd'hui, bah, ils sont un peu partout. Il y a Romain Gavras qui fait son film, la Gilly qui fait Le Misérable, il y a Mouloud qui présente Click, qui est quand même un prime tous les jours maintenant sur Canal+. Donc, à l'époque, on s'en rendait peut-être pas vraiment compte. Enfin, pour ceux qui connaissaient pas vraiment, mais le collectif Courtrage-Mé, ça a changé énormément de choses, même dans les clips.
Ouais, ils font des clips, des
pubs. Ouais, Justice, tout ça. Je crois que c'est eux qui. Non, c'est pas eux qui sont derrière Justice.
Ils ont fait Stress de Justice, absolument. Ils ont fait pour ceux, surtout d'un African Free qui a changé le rap français. Ils ont fait des clips pour Jay-Z et Kanye West, pour MIA. Donc, ça fait aujourd'hui. Enfin, ils font partie des. Enfin, Gavras fait partie des meilleurs clippers au monde, quoi. Donc, bien sûr, ouais.
Les mecs, à chaque podcast, il y a un interview pour les invités. Un interview avec un thème du film. Alors là, à chaque fois, j'essaie de me raccrocher à un truc. Je vais vous poser des questions. Interview La Haine. Plein de trucs que vous aimez pas. D'accord. Plein de trucs qui vous foutent la haine, ok.
C'est bien parce que nous, on est vraiment des gentils, on aime tout.
On est un peu feel good.
Ouais, mais justement, c'est le moment d'être un peu.
Vous allez trouver notre côté méchant.
Alors. Question, vous répondez à tour de rôle comme vous voulez. Un mec à la télé qui vous fout la haine.
Vas-y.
Il y en a pas mal quand même.
Non, moi je vais essayer de trouver un mec.
Hein. moi aussi. un mec qui fout la haine à la télé, attends, on va trouver.
Parce qu'au-delà de Zemmour, il faut qu'on cherche.
Trop facile.
Pierre Ménès, c'est trop facile aussi.
Pierre Ménès, c'est pas mal.
Pierre Ménès, alors.
Ouais, toi, t'aimes pas Pierre Ménès.
Non, je le déteste.
Ok.
C'était facile de réveiller son côté méchant. En deux questions, je le hais.
Non, je déteste Pierre Ménès, évidemment, pour plein de raisons. Mais qui aime Pierre Ménès? T'aimes bien Pierre Ménès, toi?
Bah écoute, à l'époque de M6,
100% foot, maintenant, il était détestable. Avec Dominique Grimaud, là.
C'est pour ça que j'aimais bien. À l'époque de M6. Je l'aimais bien parce qu'il défendait le PSG. Et ça me plaisait parce qu'il y a rarement des mecs qui défendaient le PSG.
Mais avant les Qataris.
C'est ça, exact. Avant les Qataris. Mais sinon, aujourd'hui, je le trouve lourd de ouf dans le
CFC. Ouais.
Mais à l'époque, c'était le seul qui défendait le PSG. Et rien que pour ça, je l'aimais bien.
Ok. Moi, j'ai en tout cas Pierre Ménès.
Moi, je me rends compte qu'en fait, comme je ne regarde plus la télé, bah, j'ai que les trucs d'été. Enfin, tu sais, sur Twitter.
Genre de l'ordre.
Les gens te trient.
De l'ordre.
Mais les gens te trient, justement, tous les dérapages, etc. Et je me rends compte, j'ai pensé à. Bah, un peu le dérapage de Pierre Ménès, le dérapage de Mathieu Delormeau. Donc, il n'y a pas un gars qui me saoule comme ça. C'est peut-être plutôt les dérapages qui.
Faut prendre
qui
un mec
font.
Qui n'a rien fait, genre Laurent Romeschko. Ouais.
je voulais faire cette vanne. Je te disais, genre vraiment, tout le monde aime Romeschko. C'est impossible de ne pas aimer Romeschko, Laurent Romeschko.
Putain, il est lourd.
C'est ouf. Une musique qui vous fout la haine, une musique que vous n'aimez pas. Par exemple, dans le style, parfois il y a des musiques comme ça qui ne vous reviennent pas. Et la dernière fois, je t'en parlais, Guillaume, la musique de. Bon intérieur, c'est ça?
Le temps est bon.
Je déteste cette chanson. Je la hais. Quand je l'écoute, ça me vénère.
Ça fait une réaction, quoi. Tu peux pas l'expliquer, quoi.
Exactement, c'est ça. Exactement comme t'as dit, Anis. Il y a des chansons qu'on peut pas expliquer, on les déteste.
Il y a un groupe en France qui cartonne, mais je sais pas si vous le connaissez parce que, en fait, moi.
Bien sûr, je sais ce que tu vas dire.
Trois cafés gourmands.
Bien sûr.
Parce que moi, j'ai découvert ça quand je bossais chez Deezer parce que je regardais les charts, mais en fait, sinon, ça n'est, genre, dans mon monde, ça n'existait pas.
C'est une catastrophe.
Et en fait, quand je me. En fait. Il y a le groupe, il y a aussi ce que ça représente, et il y a aussi genre les gens qui aiment Trois Cafés Gourmands, c'est un public particulier. Ouais. Donc ouais, là je dirais Trois Cafés Gourmands au
après,
sens large.
Il y a peut-être des auditeurs qui écoutent Trois Cafés Gourmands, on vous salue.
Mais bon, les.
Bah non, moi c'est pas mon podcast, donc non. En fait. Allez écouter nos fans, normalement.
Ils disent à un moment dans la chanson, j'ai la Corrèze en cathéter quand même.
Mais j'ai jamais écouté moi encore, c'est Guillaume.
C'est tu vois, c'est ça en fait.
Mais il faut que j'écoute.
C'est genre trois postiers horribles.
Ah oui, d'accord.
Trois postiers.
Un truc sur YouTube qui vous fout la haine, que vous n'aimez pas.
Pourquoi tu me regardes?
Non, parce que t'as pas répondu à la musique, mais.
Musique, c'est vrai, t'as pas répondu à la musique.
La musique, bah, je me rends compte que j'ai pensé à un truc qui me foutait trop la haine, et en le chantant dans ma tête, je me suis dit, en fait, ça va.
Ah ouais, c'est quoi?
Mais à l'époque, quand c'était sorti, je crois qu'il s'appelle Lucenzo, l'artiste, c'est le son qui faisait Oi, oi, oi.
Ah oui!
Attention, je ne connais pas, mais extrait.
Dame mi abuela, dame sa coruña.
C'est dur. Et ça, ça me rendait ouf. Dès que ça passait, je disais, ah, je suis énervé. Je sais pas pourquoi, ça m'énervait.
J'arrive pas à partager ton énervement parce que là, on vient d'écouter l'extrait, mais moi, je connaissais pas avant. Je ne sais pas. Question culinaire. Un plat qui vous fout la haine. Très difficile d'avoir la haine en bouffant quelque chose, t'étais vénère. Ah, j'ai vu, j'ai
qui y a, putain. Alors, j'ai pas un plat, mais en fait, c'est le concept, genre. Sans gluten.
Ouais, j'allais dire ça aussi.
Alors que moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est vraiment allergique au gluten, mais genre réellement, c'est sa santé dont on se parle. Donc là, évidemment, tu vois. Mais genre, tous les délires de je vais rester uniquement et c'est sans gluten, etc. Alors qu'en vrai, il y a très peu de gens qui sont intolérants à ça. Ça me fout pas la haine, mais on va dire que c'est un petit peu surfait, quoi.
Moi, j'avoue, sans rentrer dans le détail, une fois, j'ai mangé des pâtes sans gluten et j'avais la haine. Donc voilà. Sans aller chercher plus loin, sans vouloir l'interdire, j'ai mangé ça, je me suis dit, mais après, elles sont dégueulasses comme ça. Et j'ai lu, j'ai vu sans gluten, j'ai dit, merde, fallait l'écrire en plus gros, quoi.
Le truc qu'on vous a dit un jour qui vous a le plus foutu la haine. Alors, pendant que vous réfléchissez, moi, je vais vous raconter la fois où on m'a dit un truc et ça m'a le plus foutu la haine. J'étais dégueulasse en maths, à l'époque. Et donc, j'étais en cours de soutien. C'est-à-dire qu'en fait, à la récré le midi, quand tout le monde joue au foot, etc., moi, j'étais en cours de soutien de maths, c'était très relou. Et il y avait une meuf qui, elle, était hyper forte en maths, mais qui avait décidé d'aller dans le cours de soutien pour encore plus perfectionner ses maths. Et donc, voilà, donc moi, j'étais avec tous les mecs nuls en maths, au fond de la classe, etc., pendant le soutien. On devait être genre 10 dans la salle et tout. Bon, je sais pas, on devait rire, on devait faire des vannes, etc. Et la prof expliquait. Et à un moment donné, elle m'interpelle, elle me dit Jean-Baptiste, donc la réponse. Et du coup, j'avais pas écouté, j'étais en galère de ouf, quoi. J'étais là, genre, je sais pas, j'essaie de broder et tout, je sais pas et tout. Et la prof, elle me regarde et elle me fait vous irez pas loin dans la vie. Elle me dit ça, donc ça me fout la haine, mais le truc qui m'a encore plus foutu la haine, c'est que cette fameuse meuf qui était à côté de moi et qui avait, vous savez, la main, quand elle reste avec la main et le coude, elle tient son coude comme ça pour avoir la réponse. Elle a dit la phrase, donc la prof dit vous irez pas loin dans la vie. Et elle a juste dit eh ben ça c'est sûr. Eh ben ça c'est sûr.
Quelle connasse.
C'est comment le truc qui m'a. Donc je peux pas dire son nom. Non, parce que les gens vont aller voir sur Facebook.
On dit que le prénom, c'est Marjorie.
Mais non, en fait, je me rappelle même plus de son prénom en plus. Je crois que c'était Élise, mais je suis pas sûr.
Et en fait, Nicolas Dorson, ça t'y va.
Super.
Nicolas Dorson, je lui rendais hommage parce que il aurait pu me défoncer. Non, mais en tout cas, ça c'est sûr. Ça m'avait foutu la haine de ouf.
Voilà, ça, c'est le truc du collège, les phrases comme ça résonne trop.
Mais toi, t'as une Guillaume. Alors, Guillaume, on a une qui est très cool.
Ça dépend de laquelle tu parles, parce qu'on se raconte tout, nous, on connaît tout. Mais il y en a une à laquelle je pense, où il y a un mec, je vais dire son nom, parce qu'il écoutera pas ce podcast, je le sais. Il s'appelait Shai Veng à l'époque, et c'était
Attends, pourquoi à chaque fois t'as des prénoms qui n'existent pas?
Moi, je trouve que c'est pas déjà le premier.
Son prénom, c'est Shai. Et il s'appelle Shai Veng.
Ah, d'accord. Tout est un méchant de Dragon Ball Z avec toi.
Il y a des phrases que tu retiens. Ou genre, une fois, on avait eu un contrôle d'histoire, tu vois. Putain, j'avais eu 11, tu vois. Bon, bah, soit, quoi, j'ai 11.
Je sais de quoi tu as parlé.
Et tu sais, lui, il s'est retourné, tu vois. Et il était devant moi, il se retourne, il fait « T'es combien ?» Et j'avais dit « Bah, 11. » Il me fait « Oh, c'est bien pour toi. » Et là, je me suis dit... Et tu sais, il y a des phrases. Je sais pas pourquoi c'était... En fait, c'est resté dans ma tête. Et je vois, j'ai 35 ans, j'y pense encore, tu vois. « C'est bien pour toi, ça veut dire quoi ?» Ça veut dire quoi ? Voilà.
Bon. Est-ce que vous avez des phrases comme ça qui vous ont foutu la haine, Mehdi, Yanis?
Moi, j'aurais dit aussi, c'est terrible, mais encore un truc avec les cours, en fait, parce que moi, c'est un peu plus récent, mais quand je passais les concours pour aller en école de commerce, bref, genre, on était à 3 semaines des concours, donc le stress est au maximum, vraiment, et on était en maths, et je bouffais beaucoup de maths en prépa, et j'étais pas bon, enfin, pas plus que ça, et là, à un moment, je sais plus, je parlais toujours avec mon pote, et le prof de maths, monsieur Sio, à un moment, me regarde et me dit, ah ouais, Mehdi, Thomas, c'est terrible, hein, parce qu'en début d'année... vous auriez pu le faire, tu vois. Et il me dit ce truc là et là on est vraiment à 3 semaines du truc et c'est t'as vraiment pas envie d'entendre ça, tu vois. Et je me suis dit en fait c'est fini, tu vois, je vais tout rater, tu vois, je vais rater. Et au final je m'en suis sorti, mais bon.
Est-ce que ton prof c'était Giovanni Sio, petite référence technique footballistique?
Bravo monsieur.
Bah ouais,
bravo.
Ah,
bravo. Oui. Bravo.
Ce que j'ai les vrais reconnaîtront
Non, il s'appelait Jean-Pierre.
Jean-Pierre Sio. Et toi Anis?
Bah je vais essayer de pas dire un truc de l'école, mais j'en ai plein aussi.
Mais vas-y, ça nous régale. Franchement, dans tes anecdotes du dimanche, celle que je préfère, c'est de l'école. C'est les meilleures.
Non mais ça ressemble trop, je te jure. Je vais dire un truc récent. En fait, je me rends compte ce qui énerve, en tout cas quand t'es grand, c'est quand on te dit des trucs, t'es persuadé d'être l'inverse. Ça t'énerve trop quand on te dit un truc, t'es persuadé d'être l'inverse. Et moi, il y a pas longtemps, je parlais du fait que j'étais trop dépensier. Mais la personne m'a dit, ouais, j'avoue, depuis que t'as de l'argent, alors qu'avant... ça m'a énervé, je dis quoi? N'importe quoi, justement, c'est ça le problème. C'est que même pauvre, j'étais trop dépensé. En une journée, je pouvais claquer tellement d'argent. Bref, ça m'a énervé.
Bon, je sais pas vous, mais je trouve qu'il y a un truc, tu sais, genre, quand t'es petit, t'es pas forcément bien dans ta peau, en tout cas t'es pas encore sûr de la personne que tu es, donc genre les vannes sur le physique elles te font trop mal, ouais. Et je trouve que maintenant, je sais pas si demain il y a un commentaire ou quoi, je m'en fous, enfin tu sais, ouais. ça me touche plus du tout comme avant,
par exemple, en fait. Là, si je te dis ouais t'es chum et tout,
je m'en bats les couilles. Alors si tu m'avais dit ça même pour rigoler à 15 ans, je serais rentré, j'aurais dit à maman,
ouais, mais ça, tu vraiment, entre temps on a été en couple et tout,
exactement, tu vois,
j'ai l'impression que c'est vrai. Ça alors qu'à l'époque ça, on disait oh ça se trouve je serai seul toute ma vie,
c'est vraiment moche pour toujours.
Il y avait une meuf et tout quand j'étais petit, elle m'avait dit, je pense pour être gentil, que j'avais un nez de crocodile, genre j'y repensais la nuit, mec, je fais, c'est quoi un nez de crocodile, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi mes narines,
c'est
ça ressemble à quoi, c'est trop bizarre.
Après c'est vrai.
Et si je peux rajouter une petite histoire qui m'a foutu la haine, c'est parce que moi c'était un peu dans la musique et tout, et ça, c'est un truc avec une femme, donc tu vois, ça rajoute un peu de force. J'avais fait un concert de rap en 2003 où je jouais, c'était mon premier concert de rap, tu vois, et j'étais hyper fier, j'avais grave bossé et tout, j'étais à fond dans le truc, et pour le coup j'avais invité mon ex qui m'avait un peu largué, parce qu'en gros j'étais à fond dans le rap, je faisais mes trucs, et tu sais, elle se rendait pas compte quel avenir j'allais avoir, tu vois, dans ce truc. Et donc tu vois, moi je fais mon concert, je trop content et tout, c'est pas le grand concert du monde, mais c'est assez génial, tu vois, je suis bien, moi, tu vois, et je vais la voir à la fin, tu sais, en mode genre, hé, t'as vu, c'était lourd, non, j'ai tout fait et tout, c'est moi et tout. Et là, elle me regarde et elle fait, c'est ça ton avenir, jouer devant tes potes. Jouer devant tes potes. Et là, j'ai fait genre, oh, remise en question, mec. Ça m'a travaillé jusqu'à encore, jusqu'à hier encore, tu vois. Tout ce que je fais.
C'est ça ton avenir, faire des podcasts avec tes potes.
C'est presque ça. C'est genre le truc. Tu remets en question tout et après tu fais genre, ah ouais, c'est vrai, en fait. C'est genre, ouais, bah, ouais, c'est pas faux, ouais. Et ça t'abaisse jusqu'au bout, ça te fout la haine, ça te fout la rage. Mais en même temps, ça te met du carburant, frère.
C'est horrible, les trucs, quand t'es dans l'euphorie de ton truc, en plus, tu te dis, ouais, putain, je suis bon.
Ah, j'étais trop bien.
Paf. Mais souvent avec Guillaume, on se dit, ce serait trop cool de pouvoir revenir au collège ou au lycée, mais avec notre mental de maintenant.
Ah, fond, mec.
Avec son mental de tout.
Notre partie de maintenant.
On se fait jamais charrier. Il y aurait, tu vois, on s'en fout, comme t'as dit, Mehdi, on s'en foutrait, quoi, tu vois.
Tellement, je suis grave d'accord avec vous.
Ce serait tellement cool. Ok, une matière à l'école qui vous foutait la haine.
Moi, c'est la techno, franchement. c'est un peu évident parce que tout le monde dit ça, mais moi, j'ai été exclu de techno. Du cours, tu vois. Donc, je suis allé au bout du truc de la haine de la techno.
Est-ce que tu te souviens d'un truc que tu avais fabriqué en techno?
Bah, très peu, j'étais exclu.
Ah oui, donc tu étais exclu. Mais pourquoi tu étais exclu, du coup?
J'ai été exclu parce que j'avais insulté le prof. J'avais insulté
ah ouais.
Le prof.
Mais tu sais qu'on partage pas mal de choses parce qu'on est né dans le même département. Ouais. Et j'avais aussi été exclu en cours de techno. Petite anecdote comme ça. La seule fois où j'étais exclu au collège, parce qu'en fait, à l'époque, vous vous souvenez, c'était la mode des lasers rouges.
Les lasers.
Et donc, j'avais ramené un, et en cours de techno, je l'avais foutu sur le boule du prof. Bon, ça amusait la galerie, il en faut pas plus. Et voilà, je le mets derrière sa tête, et le prof de techno se retourne, et là, ça dans ses yeux. Puis elle en rajoute un max en mode mes yeux, comme ça. et bon, je le mets dans ma trousse, j'étais au premier rang. Et là, il fait, bon, voilà, dénoncez-vous, sinon, j'appelle le directeur. Personne ne se dénonce, mais tout le monde voit que c'est moi, donc on avait la haine contre moi. Tu vois. Le directeur arrive, il fait, bon, c'est simple, s'il n'y a pas de type qui se dénonce, tout le monde est viré une semaine. Et là, je sens que ça, derrière moi, tout le monde commence à se vénère encore plus. Et finalement, ils ont fouillé les trousses, ils ont trouvé le truc, je me suis fait virer une semaine, je me suis fait défoncer par ma mère, seule fois où je me suis fait virer. Et donc, c'était en cours de techno, comme toi, figure-toi.
Ah, mais c'est cool qu'il t'ait pas dénoncé, j'étais que sur.
Personne m'a dénoncé.
Cool, ta classe.
Ouais, non,
c'était
très cool.
Il m'arrivait un truc similaire où c'était en mode, ils ont dit, qui a fait ça? Dites qui c'est, c'était moi. Ma classe n'a rien dit, sauf qu'ils ont été plus cool. Ils ont dit on laisse jusqu'à demain pour vous ramener la chose. C'était un truc qui avait été volé.
J'ai déjà eu ça dans mon lycée aussi.
On attend jusqu'à demain pour vous ramener la chose. Fin du cours, les grosses têtes de la classe m'ont dit Anis, tu peux le rendre le truc que t'as pris. Tout le monde savait que c'était moi et je l'ai rendu. Ça va, c'était clair.
Et toi, Mehdi, matière que tu détestais?
Bon, si, comme je n'ai aucun goût. Esthétiquement, je suis nul. Les arts plastiques.
Ah ouais?
Ouais, vraiment, c'était catastrophique. J'y arrivais pas, en fait. Mais les trucs très très simples.
Les maisons avec les cheminées, la fumée. Ouais.
Dès qu'il fallait construire des choses avec ses mains, j'en étais incapable. J'en suis d'ailleurs encore incapable aujourd'hui. Donc ouais, c'était ça. Genre vraiment, toi, t'avais musique, arts plastiques qui étaient les matières secondaires. Et musique, il suffisait de faire la biographie de Chopin pour avoir 20 sur 20, tu l'as recopié.
Fallait chanter devant la classe aussi.
Non, j'ai jamais chanté. Ça, on avait juste la flûte traversière, nous. La flûte à bec.
Traversière, sinon t'es un expert, mon gars.
Traversière, c'est ce que j'ai fait pendant un an. Bref. mais art plastique, ouais, c'était très dur pour moi.
Mais comme tu dis, moi, je suis à chier en dessin. Du coup, en vrai, je suis fasciné quand je vois des gens dessiner. Comment ils font, en fait? C'est ouf. Moi, je peux rien dessiner du tout, quoi, tu vois. Et quand je les vois, qui s'est dessiné autour de cette table?
Moi, je sais plus écrire.
Moi, j'avoue, je sais pas trop dessiner. dessiné aussi.
Là où j'ai fait art appliqué.
Toi, tu t'es dessiné? Toi,
je t'ai jamais vu dessiner. Il y a encore plein de trucs que je ne sais pas de toi, Guillaume.
Sacré Nassim.
C'est ça. Arrive donc le climax de cette émission. Si je vous ai posé une question sur l'école, ma dernière question, c'est pour me permettre une transition toute trouvée. Tout à l'heure, Aurélien parlait de rap. On a ici sur le plateau Mehdi Maizi, qui n'est plus à présenter, et même Anis, qui a lancé sur sa chaîne un concept, les Français savent-ils rapper?
Oh non, non. Ne fais pas rapper, s'il te plaît.
Ah non, non, non. Et bien, messieurs, messieurs, et à la grande joie de Guillaume.
Oula, c'est un blind test.
N'est-ce pas? Non, non. Figurez-vous qu'en 1999, alors que j'avais tout juste 16 ans.
Oh oui,
alors que j'avais tout juste 16 ans, autant de boutons sur la gueule et une voix qui n'avait pas encore mué. J'avais créé un groupe de rap.
Oui, je suis trop content pour de vrai.
Ouais, je sais que Guillaume est content.
Ah ouais.
Un groupe qui s'appelait BTC avec deux potes, Théo et Jonathan.
BTC.
BTC. Avant TTC en plus.
Est-ce que tu vas passer le meilleur passage?
Bah attends.
Ah ouais.
On avait enregistré une mixtape, Fiao. Jamais sorti au tiroir depuis maintenant 20 ans. Et pour fêter l'anniversaire de cet album méconnu, je vais enfin lui offrir la lumière qu'il ne mérite pas.
Ah ouais.
En vous faisant écouter des extraits ici, dans ce podcast. Merde. Alors, je vais faire des pauses après chaque punchline. Hein, si pour avoir l'avis des spécialistes autour de ce plateau. Attention, c'est une exclusivité mondiale.
C'est ouf.
C'est ça. Personne n'a encore jamais écouté ça. Même toi, Guillaume, tu l'as pas écouté en entier. T'as juste écouté une bruit.
Il y a quelques punchlines que je connais.
Je vous préviens, c'est vraiment pas du rap. Mais, quel plaisir de pouvoir le
écouter. Allez, on voit.
Alors, le premier titre s'appelle « Le sprint final ».
Oh putain, c'est génial.
Il faut savoir qu'on détestait les profs et les cours, mais qu'on adorait les raclis et les Ferrari. Du coup, ça représente 90% des textes de l'album. C'est parti, premier extrait.
C'est moi. Ouais, écoute mon phrasé, sale prof.
Je détestais les profs.
Oh putain.
BTC arrive dans le monde de la musique qu'on trouve fracassé. On s'est pas déplacé pour faire 5 mois et puis se casser. Mon style nous déchire tous les autres. As-tu remarqué, BTC au pouvoir? Quelque chose d'insensé.
Ok.
T'as bon,
ouais, ouais, bah, ouais, c'est très
bon. BTC au
on a,
pouvoir.
On a pas fait 5 mois pour. Qu'est-ce que je dis? On n'a pas fait 5 mois pour arriver à se casser. Bah si, on n'a pas du tout fait 5 mois. En vrai. On s'est cassé très rapidement.
C'est ouf.
Oh putain.
Donc voilà.
Quel flow.
BTC au pouvoir. Bah oui, quel flow. Non, première impression, on est un peu sous le choc ici.
Moi, je trouve que c'est très. C'est dans son époque, c'est bien. C'est très bien fait.
L'entrée dans le son est très bien. Très bonne entrée dans le son.
Ouais, merci. Ouais. Extrait suivant.
En ce moment, à base de comparaison, ça y est, je vais me lancer, aussi malin que Bugs Bunny. Premier acté, plus vite que Gonzalez Speedy. Deuxième acté, plus marrant que Bill Cosby, mon phrasé.
Oh, Bill Cosby, oui, aïe, aïe.
Aussi marrant que Bill Cosby, mon phrasé t'éclate en 4. Est-ce que vous avez été éclaté par mon phrasé, là?
Bah, il y en a qui ont été éclatés par Bill Cosby, mais.
Pardon? Vous avez été éclaté en 4 par mon phrasé?
Ouais, mais on aurait pu.
Mais franchement, c'est pas j'ai pas le morceau, mais je trouve le flow, il est vachement calqué sur un morceau ou des morceaux de cette époque-là. C'est pas ridicule.
Je suis surpris. Je suis surpris.
C'est pas nul, hein?
Ouais, ouais. Alors, les
ça va pas avec ma chronique parce que je m'attendais à ce que vous me charriez de vous. Merci, Aurélien.
Non, mais c'est pas nul, ça veut dire. Bon.
Non, le flow, ça va pire. Franchement, ça va.
Moi, je m'attendais à un slam. Vraiment.
Ouais, voilà.
Là, ça va.
Ah, t'es
dans la rythmique quand même.
T'es time bomb. T'es très time bomb là.
Ensuite.
Je sais pas qu'on est là pour faire figuration dans le monde du rapé. S'accrocher au niveau comme l'a fait auparavant le PSG.
Ouh. Non, ça c'était pour Mehdi. Parce que je sais que Mehdi est fan du PSG. C'est souvent, vrai. Je te vois avec le maillot époque Anelka Ali Benarbia.
Tout à fait, absolument.
Voilà. Et donc, c'est une simple dédicace pour toi.
Eh ben, ça me fait. Je reviendrai.
Eh ben. et ben voilà. Alors la prochaine, vous verrez, on avait un peu des penchants de dictateur.
Ouais. Ça t'étonnera quand tu verras BTC à l'Assemblée, Giblan président et Bouddha en député. On changera toute la France dans une politique de démence. Un système où le rap sera privilégié, une sorte de revanche. On mettra en prison tous les bouffons qui nous ont retardés.
Voilà, donc en fait, on mettra en prison tous les bouffons qui nous ont retardés. Donc, il n'aimait pas notre rap. Il y aura beaucoup de monde en prison avant.
Mais déjà, ton pote, il se fait arnaquer, non? Toi, t'es président et lui, il est député.
Ah oui, je vois. Les
ça n'a aucun sens.
C'est vrai, Théo, je t'avais foutu député, moi, président. Ouais.
Même pas premier ministre, genre député, le gars.
Mais député, c'est pas vous, député. Hein. Non,
député de la Creuse, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien.
C'est parti. Extraction.
Maintenant qu'on est là, ouais, champ combat, c'est le sprint final.
Et ça, Guillaume va arriver.
Ah ouais.
BTC, SP, arrivé en septembre dans les bacs.
C'est là où on voit l'humilité des rappeurs. C'est BTC espère arriver en septembre dans les bacs. Après, on n'est pas sûr.
On n'était pas trop sûr de nous. Quand même, voilà.
C'est moyen. Ça peut arriver.
Ah, c'est génial.
Président sûr, mais ça, moins. Non, ouais.
On espère. On espère être arrivé.
Un président certitude, mais on ne savait pas trop si allait sortir. Donc, on espérait sortir dans les bacs.
Ça dépend de la signature.
Ah, la modestie des gars.
Les mecs sont pas sûrs d'eux, donc pas très rap comme attitude. Ils ont là, genre, on espère que ça va sortir, mais pas trop. Alors attention, dans le couplet suivant, ça dénonce et ça clash.
Okay.
C'est vraiment la partie dure de ce rap, parce qu'on sait que les clashs, parfois, c'est monnaie courante. Et là, on s'attaque vraiment en plus au plus dur. C'est parti.
Si t'as pas ce que le monde possède, de bien mauvaise réalité, on est les seuls à avoir des couilles à dire. Que Mano, c'est de la merde, ils ont
Mais c'est ça, je pense pas qu'on était les seuls. Wow.
Ça, voilà. C'est vrai que tout le rap français le disait à l'époque.
Il fallait vraiment des couilles pour dire ça, bravo.
En plus, le pire, c'est que. Alors, on va passer à l'extrait, mais la tristesse, c'est que j'ai accroché un mot. Et en fait, on a pas refait de deuxième prise. Voilà, je vous mets l'extrait.
Freestyle.
Ouais, freestyle.
Ils ont vendu plein d'albums. Pourtant, tu rappeurs ne kiffe cette musique. Musique celtique.
Maintenant, on enchaîne avec un deuxième opus intitulé Faut que je me lance.
Ah ouais, voilà. Il y a plusieurs albums.
Non, il y a plusieurs. Ouais, c'était une mixtape avec plusieurs. Plusieurs ouais. Faut que je me lance. C'est parti.
Faut que je me lance. Dans un putain de freestyle, faut monter une agence pour faire tomber la maille. Faut que je me lance.
Voilà, donc en fait, à cette époque, avec mes boutons et ma voix qui n'avaient pas mué, je voulais monter une agence pour faire tomber la maille.
Ouais, mais une agence de quoi?
J'en sais pas plus, je sais pas, je voulais juste faire tomber la maille en fait. Je sais pas.
Toute agence immobilière. J'ai un CV.
T'as quand même le réflexe de l'agence. C'est-à-dire qu'il faut monter d'abord une boîte et avec, on va faire des business.
Déposer les statuts.
Mais le sens des prios, quoi.
Le casier calice.
Ah putain.
Ok, suivant.
Dans le monde des affaires, faut pas qu'on fasse confiance aux enfoirés qui nous gèrent, faut que je me lance.
Voilà, pour info, la seule qui me gérait à cette époque, c'était ma mère. Désolé, maman, c'est pas toi que je disais. Les enfoirés qui nous gèrent, personne ne me gérait.
En fait. Mais j'ai une question, vous l'avez enregistré où en fait?
Mais en fait, c'était mon pote Théo qui avait un studio d'enregistrement.
Il avait
une sorte de mini-studio comme ça. Et il avait un appart immense et on avait tourné ça chez lui.
Waouh! Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres gens que le groupe qui ont des exemplaires de ça? Vous l'avez filmé?
Non, il y a juste une cassette, c'est moi qui l'ai en fait.
Voilà, et vous avez rien fait de ça? Vous l'avez pas sorti? Vous l'avez pas filmé aux gens du lycée?
Il y a juste une meuf qui l'a acheté en fait. Qu'on, en gros, on
l'a vendu!
Mais que
il aura fini par faire tomber la maille.
Très peu de mailles parce qu'on vendait la cassette 5€ à l'époque.
Ah.
Et donc c'était une meuf qui l'avait acheté. Il y avait juste une meuf qui l'avait acheté.
Putain, mais si tu nous écoutes.
Mais elle a la cassette.
C'est incroyable.
Je me rappelle plus de son nom. Après, bon, c'était vraiment entre nous, mais on l'appelait Ranch entre nous. Parce qu'elle avait une haleine de ranch. Vraiment, ça sentait le cowboy.
Oh non.
Non, c'est vrai, Ranch. C'est horrible comme son nom. Ranch. Mais c'était vraiment entre nous, tu vois.
Ranch,
incroyable. Elle a acheté notre cassette et tout. C'était fou, quoi. Tu vois. On était hyper heureux. Donc, comme dit Mehdi, on a fait tomber la maille sur une cassette. 5€.
Bravo.
Et ça, c'était
bon. Ouais, c'était des francs. En 99. Peut-être 5 francs.
On enchaîne.
Faut que je me lance. Dans le monde du show business, faire tomber toutes les firmes et arracher leur noblesse, faut que je me lance. Oh. Pour devenir un homme d'affaires, dégager la concurrence, pour être le seul sur la terre, faut que je me lance. Dans des textes bien posés, dans des rimes bien lancés, dans un rythme travaillé, faut que je me lance. Avec Shotub et Bouddha, pour des photos on posera, à la télé on passera, faut que je me lance.
Alors, résultat des courses.
Je suis dedans. Hein.
Il est dedans, Mehdi.
Personnellement, je suis vraiment dedans.
Résultat des courses, on a bien évidemment fait aucune télé. Mais on a fait des photos. Parce qu'il dit, pour des photos, on posera. On avait posé pour la traditionnelle photo de classe.
Pas mal.
Mais je te trouve, parce que je fais un petit analyse de texte, très obsédé par ta réussite personnelle à l'époque.
Ouais.
Tu veux être homme d'affaires.
Ouais,
il y a vraiment
ça.
Un sens du business, un président très présent.
Comme l'a dit Anis, agence immobilière, tout ça, c'est un peu moins. Ouais.
Comme quoi, t'as réussi, quoi.
Et moi, je trouve que t'es grave dans les temps, plus que. Enfin, t'es bien, ouais, quoi, t'es bien dans les temps.
Ça fait plaisir d'entendre ça. Alors là, attention, petit couplet très coquin de mon pote Théo. Ah. Écoutez bien.
J'engage les Vicky, comme ça j'irai à Ponty. Pendant que je serai à Paris, elle m'attendra dans mon lit. Je n'ai pas une mince affaire, monter une entreprise. Au concurrent, je ferai la guerre, je la mamie sur showbiz, faut que je me lance.
Voilà, son fantasme à lui, c'était Monica Lewinsky. Ouais, qui l'attendrait dans son lit.
Et lui aussi, il veut monter une entreprise. C'est incroyable. Ouais,
c'est vrai, c'est vrai. Mais elle attendra dans son lit pendant qu'il sera à Paris. C'est pas très loin de la base. Quoi. Elle sera juste chez elle.
Alors là, attention, la vitesse du débit va être beaucoup trop rapide pour vos oreilles.
Oh ouais.
Peut-être que je me répète dans mes textes d'argent, femme, succès et tout le reste, mais dans le monde du rap, tous les sujets ont été abordés.
Prends ça, Nekfeu.
Ah ouais.
Alors, ça... je pose une question à Mehdi et Aurélien. Est-ce que dans le rap, tous les sujets ont été abordés? Parce que là, quand même, ils soulèvent une polémique.
Hein. Ah, c'est vrai. Moi, j'aime bien ça. C'est comme, de toute façon, dans la musique, toutes les notes ont déjà été jouées, toutes les mélodies existent, donc fais ton truc. Ah, ouais, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup cette philosophie. Hein.
Alors, celle d'après, je l'adore, on l'écoute et on l'analyse après.
L'instrumental joue un rôle très important dans la musique que l'on donne si elle serait absente. BTC ne ramène pas d'album.
Voilà, donc en fait, l'instrumental joue un rôle très important dans la musique que l'on donne. Si elle serait absente, BTC n'aurait même pas d'album. Donc en gros, j'annonce sans pression que nos tests sont à chier. Et qu'heureusement qu'il y a l'instrumental.
Si elle serait. Si elle serait absente.
Ouais. Oui, bon, écoute.
Mickey est en train de dire, les textes sont à chier.
J'avais 16 ans, c'était compliqué.
Ah non, voilà. C'était bien.
Dans la prochaine, il y a les prémices de TFTC parce qu'on sent l'amour du cinéma.
Attends, une question. Ouais. Il y avait un logo BTC ?
Ouais, il y avait un logo BTC.
Un petit logo écrit en tag, j'imagine.
Écrit en tag,
ouais. Ouais, voilà, ouais.
Je suis en train de capter BTC, TFTC. En fait, c'est TC, ouais. Ça reste
BTC, c'était nos trois noms de famille. Barazer, Toussaint, Chabu.
C'est vraiment rap. Chabu et tout ça, c'est vraiment rap.
Bah oui, mais écoute, ouais, donc dans la prochaine, il y a les promises de TFTC.
Ne me prends pas pour un con, je vais tirer de la maison. Impossible que tu me battes, car je reviens comme Rocky IV. Soit tu es une Terminator, dans l'horreur Freddy Krueger. Dans le feu de Batistuta, compétition, je suis le roi. Toutes mes phrases te mettent KO, viens sur le ring si t'es chaud. Mon petit jeu de jambes t'impressionne. Normal, j'ai copié sur Mac Tyson, aussi posé que Will Smith.
Oh, mais alors
tout le casting que je suis pris, je joue trop bien la comédie. Le répète, tu battras pas, donc BTC existera. Faut que je me lance, ouais.
Alors, ça veut dire quoi, mon vice éclate tes sévices? Je sais pas pourquoi je dis ça.
Je sais pas ce que ça veut dire, mais franchement, là, la phase qu'on vient d'écouter, ça va.
Ouais,
franchement, ça va.
Écoute, ça kick.
Ça kick, ça va.
Écoute, moi, ce que j'aime bien, c'est quand
c'est toujours à la fin où t'as plus vraiment rien à dire et tu fais juste, ah, faut que je me lance.
Toi-même, tu t'es fatigué, toi.
Mike Tyson, ouais, faut que je me lance. Ouais.
Vous avez capté l'idée, quoi.
Je trouve quand même.
Il a fini son son en disant ça.
Le meilleur moment pour moi, ça reste comme l'intro sur le premier morceau.
Ouais.
Quand
ouais,
tu dis ça au prof, je sais pas quoi là. Le mec a envie de dénoncer des trucs.
Ouais, il dénonce les profs, effectivement. On approche de la fin. La prochaine, c'est la chanson sérieuse de l'album où ça dénonce dur. Elle s'appelle sobrement Les Devoirs. Parce que je trouve que c'est injuste, les devoirs.
Ah, mais de ouf.
Reconversion engagée, BTC l'a bien géré. Vous ne faisiez que travailler, maintenant on se met à chanter. Putain, la vie sans école, ça fait du bien à tout le monde. Depuis tout petit, ça nous colle, depuis tout petit, on nous gronde.
Depuis tout petit, on nous gronde.
Oh, oh le pauvre.
Depuis tout petit, on nous gronde.
Je me rappelle de cet instru, je sais plus c'est quoi.
Mais c'est pas un puzzle?
Ah, c'est ça, c'est puzzle. Ouais, ouais. Allez,
ouais, j'avais quand même pris les instrus de puzzle à l'époque.
Ouais, pas mal, hein.
Phase B.
C'est
ça.
Question pour vous, est-ce que la vie était plus belle en primaire et en maternelle, comme il le dit?
Comme il le dit.
Il se cite.
Non.
C'est-à-dire que déjà, quand t'avais 16 ans, tu pensais à la primaire et à la maternelle, genre c'était mieux avant. Putain, la nostalgie.
T'étais déjà un puriste.
La vie était plus belle à ce moment-là de ta vie. Tu ne pensais pas au futur. Comment gérer ta survie et à payer tes factures. Tu ne doutais pas qu'on conseille. On allait t'orienter vers un truc inconnu, un BEP maçonnier.
Maçonnier.
Non mais attends, il y a deux trucs.
Ça existe.
Il a 16 ans, il fait ouais, la vie c'était mieux avant, tu payais pas de facture. Tu
payais quoi à 16 ans? Je payais absolument aucune facture. Tu vois pourquoi je dis ça?
Il avait une vie de fou. Tu vois pourquoi je payais mes factures?
Il était abonné à un fascicule, ça le faisait chier. J'en ai marre de payer 15 francs par mois. Ah, c'est
mais
ouf.
C'est vrai ce qu'il dit, n'empêche, comme certains écoliers arrivent à le supporter, les devoirs et tout après l'école.
Mais maçonnier, ça existe ce mot-là? Ou c'est...
Bah non, ah, okay.
C'était juste pour dire pour la rime, quoi.
Maçonnier, ça existe pas, c'est vrai.
Juste pour la rime, t'as dit. Juste pour la rime.
J'ai rajouté un yé pour la rime.
BEP chaudronnier.
C'est un peu poissonnier, c'est pas mal.
Bah, pas mal.
Extrait.
Travailler dur quand tu rentres, une journée bien chargée. Comment certains écoliers arrivent à le supporter? Moi je me rapporte à la musique, c'est tout ce qui peut me sauver. Quand j'écris mes textes, au lieu de remplir mes cahiers, mais si ça venait à foirer, je n'aurais plus où jouer. Certains s'en sortent par la grande porte, d'autres restent ici à espérer qu'un jour ou l'autre ils aient une vie.
Voilà.
Oh. Ah ouais. Là ça m'a fait un truc là.
Ouais, un peu d'émotion quand même.
C'est triste, hein, là.
Ouais, c'est triste.
Ils aient une vie. Waouh.
Ouais, certains sortent par la grande porte, d'autres restent ici à espérer qu'ils aient une vie. Je voulais tout noter là-dessus. Ouais.
C'est un peu triste la fin.
C'est la fin de la haine, c'est pareil.
Est-ce bon, que vous pourrez nous dire sur Twitter si vous voulez BTC sur Spotify? N'hésitez pas.
Bon, là c'était très sérieux ce qui se passait, mais dans un album il faut contrebalancer. Donc on avait fait un tube, le tube de l'été.
Oh,
ouais, le tube
ça pensait single.
Business, quoi.
Ouais. Bah, encore une fois, comme dit Mehdi, l'entreprise, le truc, tout ça, machin et tout. Ça s'intitule BTC Avance.
Mais putain, pourquoi je parle ça? C'est pas habitué.
Ah merde,
c'est voir la c'est pas chez moi, tu me diras, ça se prouve. Putain, fais comme ça, faut que ça marche, faut qu'on y arrive, faut qu'on s'intéresse au bout.
Ouais. Ah, mais là, là c'est marrant, regarde. Attends, écoute. Attends. Faut que ça marche, faut qu'on y arrive.
Mais pour l'instant, BTC a un avis un peu trop flou.
Alors chaque fin de son il redevient honnête. Dès que c'est fini il dit mais je suis pas sûr les gars.
En fait on sait pas.
Pour l'instant BTC a un avenir un peu flou, ouais, tu
m'étonnes. Là genre on va se faire des meufs des farines mais c'est pas sûr. Mais c'est pas sûr du tout. Donc ouais, le tube de l'été.
Ah ouais, oh. Cool Quest.
On ira loin dans nos textes, on dépassera nos pensées, les meufs j'ai trop un autre. On arrête de rêver ou on va faire comme DJ.
Comme DJ Okocha.
Okay.
Absolument aucune meuf ne s'est jetée à nos pieds. Aux précisions.
Bah,
si, Ranch quand même.
Si, Ranch, bah, c'est Ranch, exactement. Je t'ai un précisé. Ok, ensuite.
C'est journée d'école, je peux plus trop les supporter, la roue tourne. Et on le devinera vite, je te donne même pas deux ans pour voir si on mérite d'être passé à Skyrock, de ne pas baisser son froc, d'attirer toutes les femmes, passer tout son temps à 4, faire des soirées chez Eddy, de rouler en Ferrari.
Voilà. Voilà. C'était le dernier extrait de cet album.
Ce morceau pourrait être dans FIFA 21.
Alors, je te donne même pas deux ans pour voir si on mérite d'être passé à Skyrock. Bon, bah ça c'est non, j'avais passé à Skyrock. De ne pas baisser son froc, je pense qu'on l'a baissé beaucoup. d'attirer toutes les femmes, pareil, aucune femme à l'époque. Passer tout son temps à Cannes, figurez-vous que je suis mitigé parce que j'ai fait mon premier Cannes là il y a pas longtemps.
Bon, ah,
donc il l'avait lu juste là-dessus. Bon,
mais les soirées de Eddy, c'est vraiment une référence à l'ancienne. Hein. Eddy Barclay.
Mais oui, faire les soirées d'Eddy, on les a pas fait. Rouler en Ferrari non plus. Mais sur les champs, tu peux louer des Ferrari à 89 euros. Donc je peux.
Attends, si je peux me permettre, c'est que t'es là. Ouais, on va rouler en Ferrari et tout. T'as le permis?
Non, pas du tout.
Toujours pas.
Non, je ne paye pas de facture. Je ne sais pas de quoi je parle. Absolument. Je ne sais pas. Voilà, quoi qu'il arrive, 20 ans après, je voudrais dire à mes deux potes Théo et Jonathan, s'ils nous écoutent, les mecs, on a enfin percé. Notre album vient d'être écouté à l'instant pour la 10e demi de personnes. Et des experts comme Eddy et Aurélien l'ont écouté, même si c'est pas ouf. Donc merci à vous.
Bravo,
merci à vous d'avoir écouté ça.
Bravo, c'était
excellent.
Je vous remercie d'avoir écouté ça.
Faut qu'on se lance, les mecs, quand même.
Faut que je me lance.
Tu te lances.
Faut que je me lance.
Enfin. Lance-toi.
On arrive à la fin de ce podcast. Malheureusement,
oh non,
bientôt. Bah oui, c'est triste. Surtout qu'en plus, je dois même préciser encore que vous êtes arrivé jusqu'à Sèvres et ça, c'est beau. Bravo. J'ai envie de le dire quand même à chaque épisode parce que les invités viennent à Sèvres et ça, c'est beau.
Ouais,
ça
moi, fait... j'aimerais bien le redire encore une fois. Même.
Et ça, ça fait plaisir. Au niveau des actus, Mehdi, quelles sont les prochaines actus? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose?
Non, bah alors là, il y a Rap Jeu, qui est une émission que j'anime sur YouTube, sur la chaîne Red Banks, qui est une chaîne produite par Red Bull. D'ailleurs, Guillaume,
oui,
à ma droite, travaille activement sur ce projet. Il travaille sur la réelle.
Oui, ça, ça exactement.
Non, je sais pas. Bon, la technique, c'est des mots. Voilà. Je sais pas. Il est perçu, quoi. Il est perçu.
Il n'y a pas les gestes de la main, mais ils sont très dédaigneux.
Enfin, il s'occupe des câbles.
Il roule les câbles.
Réel, technicien, bon, il s'occupe des câbles.
Il est responsable. Il est responsable sur un jeu.
Il est maçonnier.
Je peux vous dire. Il ne manque jamais un câble, en tout cas. Mais voilà, donc Rap Jeu, il y en a, je sais pas quand l'épisode sort, mais il y en a un qui sort vendredi. Bref, il y en a toutes les deux semaines. Et ça continue en 2020. Et puis après, il y aura d'autres choses qui arriveront l'an prochain, mais j'en parle pas encore. Mais voilà. Rap Jeu pour l'instant, en tout cas.
Bravo. Anis?
Bah moi je fais comme tu l'as dit sur ma chaîne un concept qui s'appelle Les Français savent-ils rapper, et du coup là j'en ai sorti un qui était à Marseille et j'en ai tourné un à Lyon et à Lille, donc il risque de sortir incessamment sous peu.
C'est d'ailleurs pour ça que tu n'as pas pu être dans un rap jeu parce que tu étais à Lyon.
C'est exactement, voilà. Ouais. J'ai fait ça en trois jours, hein. Je suis parti faire ça.
Où est-ce qu'il rappe le mieux pour le coup, tu sais?
C'est marrant, tout le monde me demande ça.
Ah ouais, et je sais pas.
Bah déjà ça serait horrible que je suis allé un jour.
C'est eux.
Non, mais ceux qui m'ont le plus surpris, c'est Lille.
Ah ouais.
Ouais. Parce que Lille, ils veulent percer, quoi.
Ouais.
Alors que les autres, ils rappaient en mode nous, on aime bien le rap. Ils étaient en mode ah ouais, tu veux nous filmer? Bah, tu vas voir comment on va tout plier. Quoi.
Ça manque des entreprises.
Ouais, c'est ça. Dans la volonté, ils m'ont surpris. Et du coup, oui, bah, juste pour dire que je vais faire un peu de choses sur ma chaîne, dont ça. Il y aura d'autres choses qui vont arriver, mais voilà, je développe un peu plus ma chaîne YouTube.
Et du coup, est-ce que t'as d'autres villes en tête pour ceux qui nous écoutent? Parce qu'on nous écoute un peu partout en France. Est-ce que t'as d'autres villes en tête?
Bah, en vrai, je sais pas. Je vois un peu ce que les gens me disent d'aller. Il y a beaucoup Strasbourg qui ressort et Montpellier. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille là-bas, sinon on va me défoncer.
Ouais, Guéret aussi.
Grigny, on va dire pas mal. Cergy Pontoise et Angoulême.
Ça marche pour ça. Angoulême, ça peut être lourd.
Non, en vrai, beaucoup Strasbourg et beaucoup Montpellier, j'ai l'impression. Mais moi, secrètement, je vous le dis ici, j'aimerais le faire aux Antilles. Voilà, c'est ce qui ferait. Ah ouais. Ça s'appelle les Français, j'ai l'impression qu'on les calcule jamais, même la Réunion, la Nouvelle-Calédonie.
Oui, c'est la question que j'allais te poser, est-ce que ça va s'exporter dans les dom-toms ou ailleurs?
Bah, je kifferais trop, moi. Genre, l'objectif final, ça serait de toutes les faire, comme ça, c'est cool. En plus, c'est pas à côté, donc je vais bien galérer, mais genre, Nouvelle-Calédonie, Réunion, les Antilles, la Guyane, enfin, tout ce qui est français, tu sais, on a oublié, genre, on s'en fout.
Et ouais, bah, en j'aimerais bien l'inclure. C'est que ça devienne un truc fat, dans tous les pays, genre, je sais pas, est-ce que les Bulgares savent chanter?
Pas de base,
est-ce que les Espagnols savent chanter, savent rapper, tu vois?
Concept que j'ai pris aux Américains. Donc déjà, ça existe déjà pas mal aux États-Unis. Mais ouais, pourquoi pas. Après, si je vais le faire autre part et que je comprends pas la langue, j'ai l'impression que je serais moins efficace. Ouais. Donc je préférais que des gars de là-bas le fassent, tu vois.
Au Danemark.
Mais oui, il nous reste aussi la Belgique, la Suisse, voilà. Il y a plein de gars qui
mais
quittent,
est-ce
quoi.
Que quand tu y vas, tu galères à trouver les gens ou tu les cibles ou comment ça passe? T'as rendez-vous ou comment tu fais?
Ce qui est marrant, non, j'ai pas du tout rendez-vous, je veux pas du tout tricher. Justement, il y a des gens, ils me disent où est-ce qu'on peut se capter et j'ai pas envie de tricher parce que du coup, ça. Vu que je l'ai déjà fait sans tricher, c'est dommage pour les autres. Ouais, enfin, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un truc pas bien. Mais je dis, je serai à peu près en centre-ville. Et à Lyon, il y a des gars, ils m'ont attendu 3-4 heures. Et ils savaient que j'allais passer dans cette rue. Et dès que je suis passé, ils l'ont fait. Mais non, ce qui est marrant, c'est qu'au début, je galère de ouf. Toujours. En plus, moi, je suis pas un mec très. J'aime aller parler aux gens. Enfin, je ferais jamais. Oh, si c'était pas pour le rap, je ferais pas ça, quoi. Je ferais pas de. Je suis pas très micro-trottoir, je suis pas très caméra cachée, c'est pas les trucs que j'aime bien. Du coup, pour moi, c'est toujours un enfer, mais ça, vous en foutez, c'est pas dans la vidéo, vous allez voir. Mais moi, au début, pendant 3 heures, je suis en mode. Ah, j'aime pas faire ça, je suis pas à l'aise et tout. Et au début, souvent, je vais voir des mecs habillés un peu street. Et mon cousin qui filme me dit. Ah, pourquoi tu fais ça? C'est de la discrimination. Mais pour me rassurer, j'ai besoin d'aller. Je dis, je vais voir les mecs, je suis en mode. Yo, le rap et tout, tu vois le délire un peu? Je commence un peu avec ça, mais une fois que c'est lancé, l'idée c'est de pas faire rapper que des jeunes, que des trucs. Justement, je me prends plein de râteaux de vieux, j'adore, parce que je me dis s'il y en a un qui dit oui, ça va être mortel, quoi.
Et d'ailleurs, moi, quand j'avais regardé la vidéo, je m'étais dit, parce que dans la vidéo, on peut voir peut-être 7, 8 personnes, je veux dire, peut-être que je dis une bêtise, mais 7, 8 personnes, mais sur combien de personnes t'as fait la vidéo? Genre, en gros, t'en sélectionnes combien et
combien de gens rap ou combien de gens à qui je demande?
Non, combien de gens rap?
Bah, en vrai, j'en coupe le moins possible.
Ouais.
Mais je dois en couper à chaque fois 3-4, tu vois. Parce que je sais comment Internet marche. Il y a des gens, en fait, ils vont se faire terminer. Okay. En fait, c'est pour eux que je les coupe. Sinon, je mettrais tout le monde. Là, tu vois, dans la dernière, on avait des filles. Des filles sur Internet, vous savez ce qui se passe. C'est genre, il y a une meuf et tout. Et les gens deviennent fous. Du coup, on s'est pris la tête, mais on voulait pas les couper parce que c'est tellement fou qu'on a réussi à avoir ça. Du coup, on s'est pris la tête pour essayer de mieux les mettre, mieux les agencer, les trucs. Moi, l'idée, c'est pas que les gens s'affichent, quoi. Mais il y a des gens, enfin, il y a un mec que j'ai coupé, exemple concret, il a fait un couplet de Drake. J'ai dit, je vais pas le laisser se faire terminer, tu vois. Alors que je voyais qu'il me faisait croire que c'était pas un couplet de Drake. Mmh. Mais bon, ça, je peux pas le changer, je vois pas comment je peux changer. Et aussi, une fois, il y a un mec, il est venu avec un texte. Bon, c'est méchant. Il est venu avec un texte, il l'a lu. Donc déjà, c'est pas tout le monde qui fait ça, et c'était nul. Du coup, je me suis dit, lui, il va se faire terminer, c'est sûr. Tu vois.
Est-ce que dans ses textes, il parlait de monter des entreprises ou de...
Bah, en vrai, c'était plus nul que ce que tu nous as fait écouter.
Wow, c'est je sais qu'il a un compliment de ce podcast. C'est vrai qu'il a fait un truc très nul, mais toi, c'était un peu moins nul. C'est mon compliment, je le prends vraiment pour moi.
Toi, je t'aurais regardé, JB, si je t'aurais laissé dans la vidéo.
Guillaume, je crois que c'est à toi de choisir le sujet du prochain podcast.
Ah mais oui, tout à fait. Alors, figurez-vous que la dernière fois, j'avais envie de... Je suis allé sur le Cinématcheur.
Yes.
Et j'étais à la maison, donc j'ai tapé à la maison.
Ok.
Je voulais aller en Amérique du Nord parce que j'aime le cinéma américain.
T'y vas souvent, toi, hein.
Et je me sentais amoureux, heureux, transporté.
Ok.
Et j'ai trouvé le film de la semaine prochaine.
Alors, est-ce que t'as des indices? Alors, sur le plateau, on doit pas répondre, mais sur Internet, ils répondront.
Donner un petit indice, diner,
ok,
réveil, et neige. C'est très...
Les puristes reconnaîtront.
Les puristes sont reconnus.
Je l'ai.
Bravo. On l'a ici, bravo.
Et bon effronts du ski.
Mehdi et Anis, je vous remercie beaucoup d'être venus dans ce 4e épisode du podcast We Love TFTC.
Merci pour l'invitation.
Merci à toi, frérot.
Un plaisir.
On est ravis. Et puis, nous, Aurélien, Guillaume, on se dit dans 2 semaines.
Yes,
avec plaisir.
Ciao tout le monde.